Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue.
Pourquoi il est vide le chat? Qu'est-ce qui... Non, si, c'est bon, c'est bon. Je sais pas pourquoi il se refresh parfois, mais pas tout le temps. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien en ce vendredi? Petit stream détente, tranquille, posé. On est là pour se mettre bien. La Zélan commence dans 2 heures, si j'ai bien compris. C'est 18h30, c'est ça le début? Ou 19h, je sais plus. C'est dans 2 heures, ouais. C'est dans 2 heures, donc 18h30. Voilà, ceci est une waiting room finalement de la Zélan. Moi, je l'ai déjà gagnée, la Zélan. Enfin, je veux dire, celle de cette année. J'ai déjà gagné. Donc, c'est pas la peine d'aller à Montpellier. Non, enfin, on est bien là. Mais je vais quand même regarder les copains essayer de me battre. Ça fait court pour aller à Montpellier, Bayrou te prête son jet. C'est en avion pour aller à Montpellier, ça doit. Ah ouais, non, c'est moins de 2 heures. Non, tu peux faire le vol. Faut aller vite, mais tu peux faire moins de 2 heures, ouais. Tu vas faire quoi des 40K, les réinjecter dans les NFT? Des 40K de quoi? Ah, pardon, de la win. De la win de la Zilan. Les 40K, je vais. Ça, non, tiens, ça a raison, c'est une bonne question, je sais pas ce que je vais faire. Mais ouais, je vais probablement tout investir en crypto. Je vais tout investir en crypto parce que c'est l'avenir, la crypto. Et Elon Musk, c'est un génie. Acheter des Warhammer avec 40K. Ouais, remarque, t'as raison, avec 40K, je pense que si j'ai vraiment du sens de l'humour, je vais acheter des Warhammer. 40 000 balles de Warhammer. On va faire ça. Tu pourrais faire un restream de la Zilan où tu présentes chaque streamer comme les députés pendant les QAG. Alors lui, c'est Skyheart. C'est un très très bon joueur. Extrêmement perfectionniste. Lui, c'est Wingo, c'est mon préféré. Il va win. Il a déjà gagné tout mon cœur et le vôtre sûrement. Pour 40K, t'as plus grand chose de Warhammer. C'est vrai, 40K, c'est pas assez. Question aux gamers. Ah là là. Il va y avoir une boîte avec deux troupes et un héros, il pourra même pas jouer. C'est si cher que ça, les Warhammer? Je me rends pas compte. C'est quoi le revendeur? Putain, tu sais te dire à quel point je suis largué, hein. Bah c'est tout simplement Warhammer.com. Bravo, Jean. Bravo, Jean. Où est-ce que je suis en France, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en une? Qu'est-ce qu'il y a en une en ce moment? Le set d'initiation ultime, dans lequel t'as des tyrannides et des Space Marines avec un héros. Ok, d'accord. D'accord. Et c'est 170 balles. Putain, c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que ça pique un peu quand même. 170 balles le coffret d'initiation. Après, t'as beaucoup de trucs dedans, tu me diras. Parce que je suppose qu'il te file la peinture et tout avec. Non? Bon, là, on a le détail. Mais t'as quoi d'autre? Ah non, t'as aussi le décor. T'as aussi le décor. Oh, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Hop. Est-ce que t'as la peinture avec? J'ai pas l'impression. T'as plein d'éléments de décor, t'as du lore, t'as un plateau. Non, y a pas la peinture. C'est sans peinture. C'est sans peinture, donc faut acheter la peinture à côté. Alors la peinture, elle coûte combien? Assembler et peindre. Peinture. Est-ce qu'il y a des kits de peinture? J'ai pas l'impression. Je suis sûr que ça existe. Space Marine. Si tu veux faire des Black Templars, par exemple, ils te vendent des Black Templars, mais est-ce que tu as des kits de peinture de Black Templars? Ouais, il y en a, mais je sais pas où c'est sur le site, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait quand même. J'en ai vu en magasin des kits de peinture que t'achètes pour peindre tes Warhammer, et comme ça t'as les couleurs qui vont ensemble et tout, avec les sous-couches et tout, la colle, machin. Oh, c'est ultra cher. Ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est franchement cher, c'est franchement cher. Moi, je me souviens de l'époque où les Warhammer, ils étaient en plomb. Hein. Je sais pas si c'était du plomb ou du métal ou un autre genre de métal, mais je me souviens de l'époque où c'était en plomb et ça coûtait déjà cher. Hein. La peinture officielle, elle est certes plutôt bonne, mais très chère. Souvent, on se rabat sur d'autres marques moins chères. Ouais, je comprends. Il y a effectivement d'autres marques qui proposent des peintures. Ouais, c'est vrai. C'est un hobby de riche ou alors c'est ton seul hobby. C'est un hobby qui coûte le prix d'un hobby. Hein. On en parlait, vous vous souvenez quand qu'on était sur Euroguessr, on en discutait avec Mila de Blois ou c'était pas avec Mila qu'on en discutait, je sais plus, mais c'était sur combien de pognon est-ce qu'on met dans des skins dans les jeux vidéo. Combien de pognon est-ce qu'on met dans les skins de jeux vidéo? Ouh là là, c'est beaucoup d'argent, tout ça pour des skins et tout. Et moi, à chaque fois, je mets ça en regard avec le coût d'un hobby autre. C'est-à-dire, si ton truc à toi, c'est le jeu vidéo, si tu aimes le jeu vidéo, si tu joues au jeu vidéo, si tu apprécies, si c'est ton délire et tout, le fait de mettre de l'argent dedans pour kiffer, acheter une console, acheter une manette, et acheter des jeux, acheter des skins et tout, bah, ça fait partie des dépenses qui sont incluses dans le fait que tu aimes bien ça. Un mec qui est passionné de moto et qui passe son temps à bricoler sa bécane, tu crois qu'il dépense pas d'argent, lui? Ça coûte vachement cher, hein. La peinture, les plaquettes de frein, j'en sais rien, j'y connais rien en moto, mais c'est pas donné, hein. Les passionnés de bagnole qui font des tours de circuit le week-end, bah pareil, hein, ça coûte cher, c'est pas gratos. Les passionnés de golf là qui achètent des clubs, qui achètent des balles, qui achètent des green fees et tout, bah ça coûte du pognon. Les passionnés de cyclisme là, bah c'est cher un vélo et tous les équipements pour le vélo et pour le corps et tout. Donc en fait. Moi, je veux bien que. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a un regard méprisant vis-à-vis du fait de dépenser de l'argent dans les jeux vidéo, parce qu'il y a cette espèce de perception culturellement assez ancrée, selon laquelle le jeu vidéo, c'est ludique et donc un peu méprisable. C'est pas très noble, le jeu vidéo, dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est un peu ridicule de dépenser de l'argent et de passer du temps à jouer. Jouer comme des enfants. Alors que moi, je suis passionné de moto, moi je suis un peu au-dessus, tu vois, moi j'ai une passion qui est un peu noble et tout. Et je me dis, mais en fait, enfin, à quelle heure en fait? Tu vois, à quelle heure est-ce qu'on hiérarchise les hobbies? Si ton truc c'est la moto, fais de la moto, je t'en supplie, enfin vas-y, mets-toi bien. Mais laisse les gens dont le hobby c'est le jeu vidéo jouer au jeu vidéo en fait. Les boomers n'y comprennent rien. J'ai même pas l'impression que ce soit que des boomers, hein, parce que j'ai aussi entendu des jeunes dire des trucs comme ça. Hein. J'ai aussi entendu des jeunes dire, oh là là, des skins dans les jeux vidéo, c'est ridicule. Tout ça pour des cosmétiques et tout. J'ai dit, mais comment ça, les cosmétiques? Toi, tu vas faire du shopping pour. tu vas acheter des palettes de maquillage chez. Putain, c'est quoi déjà le nom? J'y connais rien. J'en achète pas. J'allais dire Zara, mais c'est pas ça. Bref, vous m'avez compris. Sephora, merci, Sephora, putain. Oh, le nul! Oh, le nul! Bah voilà, bah si, bah c'est très bien. T'as le droit d'acheter ta plaquette de maquillage chez Sephora pour te faire belle. Genre, c'est très cool, en fait. Il n'y a pas de souci. Et si moi, j'ai envie d'acheter un skin dans un jeu vidéo? Bah, je fais ce que je veux. Enfin, c'est mon problème. Et si tu trouves que c'est moche, bah c'est pas grave. Moi, je me suis abstenu de faire des compliments sur ton maquillage, hein. Ça va évoluer, je pense, les gamers vieillissent. Non, non, mais c'est sûr, c'est déjà en train d'évoluer, bien sûr. Je suis d'accord. Non, non, mais oui, c'est en train d'évoluer parce que générationnellement, on est en train de gagner la bataille petit à petit. Mais je trouve que c'est encore assez ancré, cette idée, dans l'esprit public que le jeu vidéo est méprisable par nature, quoi. C'est pas très adulte de jouer aux jeux vidéo. Ben, nique ta mère. Ça, c'est puéril. Tu vois? Les maisons de retraite et les EHPAD, dans 20-30 ans, ils feront des LAN. Ah, mais moi, je vous ai déjà dit hein, que quand on aura, dans les années 2050-2060, là, hein, quand on sera en EHPAD, vous et moi, moi, je vous ai déjà dit, rendez-vous au rez-de-chaussée, dans la salle de LAN, pour se foutre sur la tronche sur Mario Kart. Hein. C'est, moi, c'est le projet. Hein, c'est totalement le projet de ma vieillesse. Hein. Ça part en LAN. Je sais qu'il y a des vieux qui jouent à la pétanque, il y a des vieux qui aiment se promener, il y a des vieux qui aiment, je sais pas, faire plein de trucs de vieux, quoi. Moi, tranquille, jeu vidéo. Sur Trackmania. Ouais, sur Trackmania, ouais, sur Trackmania. Non, non, on sera des petits, on sera des... Voilà. L'EHPAD des rameaux contre l'EHPAD du mafelu, du mafeuillu. Voilà, on organisera des petites compètes inter-EHPAD. Voilà, on va faire l'inter-EHPAD. Non, ça va être très bien. On sera là. Donc moi, j'aurai deux activités dans la journée. La première, c'est de jouer aux jeux vidéo avec vous. Et la deuxième, c'est de débriefer avec vous l'actualité politique. On sera là dans les années 2060, comme ça, comme des connards avec notre myopie et tout, en train de dire « Qu'est-ce qu'il faut, c'est n'importe quoi !» Mais qu'est-ce que c'est? Ils sont incapables de faire une union de la gauche. Oh! Non mais, moi de mon temps, je m'en souviens. Vous souvenez, vous? Ceux qui n'ont pas Alzheimer, là, vous souvenez? À l'époque, vous rappelez-vous, il y avait le Parti Socialiste et la France Insoumise, voilà, c'est ça. Bon, déjà, ça se mettait sur la tronche un peu. Mais bon, ils savaient quand même se réunir quand c'était nécessaire. Et là, ces petits jeunes, là, qu'est-ce qu'ils font, ces petits jeunes, là? C'est incompréhensible, c'est n'importe quoi. Alors voilà. C'est quand même moins bien qu'avant ce NNNNFP. le NFP 2060 Edition. Qu'est-ce que c'est que ce programme commun qui tient pas debout? C'était mieux avant. L'union de la gauche, c'était mieux avant. L'union de la gauche, c'était mieux avant, d'une manière générale. Et cette analyse est éternelle. C'est ça qui est bien. Bon. Donc voilà, donc on s'énervera. On s'énervera tous ensemble, là. On s'énervera tous ensemble. Et c'est ça, ce sera la réélection de Louis Sarkozy à la présidence de la République. On s'énervera comme ça. Et puis après, pour se détendre, on ira jouer à Trackmania. Voilà, ça va être le contenu de nos journées dans l'EHPAD. Moi, je suis chaud. Hein. Moi, je suis très, très chaud. Comment ça, la 9e République? Comment ça, la 9e? Moi, je trouvais que la 8e était pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce projet de 9e République? Aïe! Ça ressemble déjà à mes journées. C'est bien ce que je dis. Ça ressemble aussi aux miennes, hein. Jouer aux jeux vidéo, parler de politique. C'est à peu près le résumé de ma vie. Hein. Moi, ça me va. Moi, je suis bien. Si on peut continuer à l'EHPAD, on continuera, quoi. On jouera à GTA 7. On jouera à GTA 7. Et à Half-Life 2. Et Star Citizen sera sorti aussi. Hein. Ou, c'est pas sûr, mais dans le doute, si Star Citizen est sorti, je me démerderai pour qu'on l'installe sur les PC de l'EHPAD. Sur le point de sortir. Oui, voilà, c'est ça. Ça arrive très prochainement. Est-ce que l'arthrose, ça rendra pas les jeux vidéo compliqués? Putain, t'es chiant, toi. Toi, tu viens niquer l'ambiance, quoi. Mais c'est pas grave, parce que d'ici là, on sera dans le métavers, hein, je vous rappelle. On sera dans le métaverse. On sera en VR. Et on aura des électrodes dans le cerveau qui nous permettront de jouer aux jeux vidéo. Problème résolu. C'est J'ai déjà de l'arthrose. Non, mais tu vois, t'auras pas d'excuses, Pemp. Je t'ai dit, on se retrouve au rez-de-chaussée, là, à côté de la grande salle. On installera une salle de LAN. Avec Alzheimer, on pourra refaire Outer Wild à l'infini en découvrant le jeu à chaque fois. Oh putain! Ouais. Non, je sais pas dans quel monde on vivra, je sais pas l'ambiance qu'il y aura, mais comptez sur moi en tout cas pour mettre de l'ambiance dans les pads où je serai. On va organiser les choses, on va rigoler. Aucune chance que ça tourne sur les PC de l'EHPAD Star Citizen. Non, mais il n'y aura pas de PC dans les EHPAD, il y aura des VM, il y aura des machines virtuelles, il y aura des. Donc il n'y aura plus besoin d'avoir des cartes graphiques. C'est fini les cartes graphiques. Les cartes graphiques, ça va être passé de bonne au bout d'un moment. On n'aura plus de PC chez nous. Hein. On aura juste un écran, une connexion Internet. Cloud gaming, jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que. Nous, on jouera sur des écrans en 16/9. On aura des écrans à l'horizontale en 16/9. Nous, on sera des vieux. Hein. On sera habitués au 16/9. Les jeunes, ils seront habitués à jouer en vertical. Ils auront d'autres jeux vidéo que les nôtres, tu vois. Mais. Je suis pas chrétien. Attends, on change de sujet. Je suis pas chrétien. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le chemin de croix? Oui, le chemin de croix, c'est un épisode de la Bible, du Nouveau Testament, dans lequel, ça raconte la souffrance de Jésus, que les chrétiens appellent le Christ, lorsqu'il est allé porter sa croix jusqu'à la crucifixion. Avant de crucifier Jésus, on lui a fait porter sa propre croix. Tout en le torturant, le fouettant, l'humiliant, etc. Et donc le chemin de croix, ça raconte l'épisode douloureux de Jésus portant sa croix jusqu'au Golgotha pour être crucifié. Donc quand on l'expression le chemin de croix, ça représente une épreuve particulièrement difficile. Le chemin de croix, c'est, je sais pas moi, genre faire 2 ans de prépa, c'est un chemin de croix avant de réussir enfin son concours. Je sais pas, je te donne un exemple à la con, mais ça peut être utilisé dans énormément de domaines différents, mais voilà. Ça parlait de LAN à l'EHPAD. Je vais aux toilettes, je reviens, ça parle de chemin de croix. Ben oui, non, mais je réponds à vos questions. Et si vous avez des questions, ben je réponds toujours avec grand plaisir si je peux vous apporter des infos. Si vous avez des questions sur la culture chrétienne et que vous êtes un peu largué. Moi, j'ai reçu une éducation catholique quand j'étais petit. Bon, je dis pas que je suis le meilleur apologète et connaisseur de la Bible, mais si vous avez des questions, vous n'avez jamais percuté pourquoi les chrétiens ils disent ça, je peux essayer de vous aider. Hein. 100% largué d'ici. Bah ouais, non, mais je me doute bien. Hein. Je suis étonné qu'hier dans Backseat, vous n'ayez pas parlé des attaques sur les prisons, à moins que je me trompe. T'aurais voulu qu'on dise quoi? En parler, ça veut dire quoi pour toi? En parler. Ah, au fait, il y a eu des attaques dans les prisons, il y a une enquête qui est ouverte. Voilà, je vais finir d'en parler. On n'en sait rien, on n'a pas d'infos. Je préfère Game of Thrones, oui. Pourquoi est-ce qu'on parle des judéo-chrétiens alors que les chrétiens ont toujours été contre les juifs? Les chrétiens n'ont pas toujours été contre les juifs, c'est plus compliqué que ça. Le christianisme vient du judaïsme, voilà. Règle numéro 1, Jésus. le mec à la base, hein, quand même un peu du courant chrétien par définition, il était juif, il n'a vécu qu'en Palestine et en Israël, il n'a jamais quitté ses territoires et il est mort en ne prêchant que par et pour Israël. Donc voilà. C'est donc des juifs qui, sur les leçons de Jésus, au cours des 2 premiers siècles de ce qu'on appelle le proto-christianisme, ont ouvert la parole de Jésus et donc son évangile à ce qu'on appelait les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Et donc, ce qui au début n'était qu'une secte juive est devenu un courant plus large qui embrassait les non-juifs, qui sont donc devenus les chrétiens. Et ensuite, dans les évolutions plus tardives, post-Empire romain, il y a eu un catholicisme qui a développé une pensée antisémite. Ou en tout, pas tant antisémite qu'anti-judaïque. Donc oui, il y a de l'antisémitisme dans l'histoire du christianisme, notamment et spécifiquement dans l'histoire de l'Église catholique. Mais c'est pas les chrétiens sont des anti sont, sont des anti-juifs. Ça, c'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Salut Jean, ma fille de 14 ans veut comprendre la politique. Par où commencer? Par Jésus. Par Jésus. C'est un peu la base. Hein. On est sur. C'est l'inventeur de la gauche, hein, techniquement. Non, je déconne, je déconne, je déconne, c'est une blague. Par où commencer à 14 ans pour s'intéresser à la politique? En fait, la politique, ça ne s'apprend pas dans les livres. La politique, ça ne s'apprend pas dans. Je sais pas. Moi, mon conseil pour tous les gens qui cherchent à s'intéresser à la politique, c'est de tout simplement suivre l'actualité. Juste suivre l'actualité. Ça ne veut pas dire tout lire ou tout suivre, mais s'intéresser à ce qui se passe. Et petit à petit, on va se mettre à s'intéresser de plus en plus à la politique. Mais ça vient avec le temps, en fait. C'est pas. Donc ouais, non, c'est vraiment. Surtout pour quelqu'un de 14 ans, à mon avis, le mieux, c'est que tu l'abonnes à un journal. Il faut qu'elle télécharge des applications comme Le Monde Libération, Le Figaro, j'en sais rien, des journaux de référence, comme on dit. Elle active les notifications et puis voilà, elle va suivre l'actu, petit à petit. L'actualité est biaisée et orientée sur tout. L'actualité, c'est biaisée et orientée? Comment ça? Enfin, l'actualité, c'est l'actualité. Après, ce que t'en penses, c'est autre chose, mais. Super intéressant, merci pour la clarification. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le courant anti-judaïque intra-catho, s'il te plaît? J'en avais jamais entendu parler. C'est plus très contemporain, hein. C'est aujourd'hui évidemment tout ça a fait du temps. Je vous rappelle qu'on parle de l'histoire du christianisme, c'est 2000 ans d'histoire, 2000. Il s'est passé beaucoup de choses à beaucoup d'endroits de la planète, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, avec des voilà. D'ailleurs, le christianisme, je vous rappelle que ça regroupe un ensemble de courants religieux basés sur les évangiles du Christ, d'où leur nom, les christianismes. Mais vous allez retrouver dedans un immense mastodonte qui s'appelle l'Église catholique apostolique et romaine. Vous allez retrouver les coptes, vous allez retrouver les protestants. Et quand je dis les protestants, attention, ouvrez les yeux, c'est gigantesque les protestants. La quantité de protestants différents les uns des autres qu'il y a en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine, c'est absolument immense. Ils sont très différents les uns des autres et tout machin. Et sur le caractère, sur l'anti-judaïsme, tu as un truc que tu peux retrouver dans les décorations sur les cathédrales, notamment à Notre-Dame de Paris, tu as des représentations des juifs qui sont représentés avec les yeux voilés. C'est-à-dire qu'ils ont un bandeau sur les yeux. Et c'est du symbolisme chrétien, pour montrer et pour dénoncer les juifs qui ont commis l'erreur de ne pas voir le Fils de Dieu dans Jésus. Parce que Jésus, il faut quand même se rappeler que Jésus, c'est un bonhomme. Jésus, c'est un prédicateur religieux itinérant et guérisseur de la Palestine du 1er siècle, juif, 100% juif. Jésus, il a prêché un renouveau religieux du judaïsme basé sur le pardon. Donc c'est un monothéisme avec l'idée que d'avoir un Dieu qui pardonne et qui accueille tout le monde malgré les péchés, etc. C'est ça la base de la pensée de Jésus. Ça n'a pas plu à tout le monde, hein. Ça n'a pas plu à tout le monde, et notamment certains juifs ne l'ont pas beaucoup aimé. À l'époque, c'était un perturbateur. Et donc il n'était pas très apprécié par les autorités juives autour du temple à Jérusalem. Et donc il a été vilipendé par certains juifs. Au point même que tu as une partie des catholiques qui a considéré à une certaine époque que les juifs étaient responsables de la mort de Jésus, que c'était les juifs qui avaient crucifié le Christ. Sauf qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi l'Empire romain qui joue un rôle dans tout ce merdier, et c'est pas les juifs qui ont tué Jésus. Mais dans cette idée, tu as un antisémitisme qui découle d'une vision de l'histoire de Jésus basée sur une accusation envers les juifs en disant que les juifs sont un peuple régicide. Et déicide, pardon, pas régicide, déicide. Les juifs ont tué Dieu, vous rendez compte ? Bon, et bien sur cette seule base-là, tu as eu un anti-judaïsme très virulent au Moyen-Âge. Voilà. Et qui a duré assez longtemps. Et puis il y a eu des persécutions. Je veux dire, les juifs ont été persécutés dans beaucoup de pays, y compris la France, hein, par les autorités, y compris religieuses. Donc je te l'ai fait à la serpe. Hein. Là, ce que je viens de te raconter, c'est très à la serpe, une histoire qui est infiniment plus complexe que ça, qui fait intervenir des acteurs très différents les uns des autres, à des époques différentes, à des lieux différents. Et je t'invite à regarder les documentaires, notamment Arte, qui a fait une série doc sur le proto-christianisme, que j'ai beaucoup aimé, où tu te rends compte que tout est plus compliqué que ça. C'est à peu près ce que tu peux en retenir, c'est que tout ça est beaucoup plus compliqué. Et pour le catholicisme, on n'a pas parlé des je sais pas combien d'ordres. Ah oui, il y a les ordres catholiques. Oui, non, mais t'as raison, il y a les ordres catholiques, évidemment. Les bénédictins, les jésuites, les... Putain, comment ils s'appellent? Oh, je sais plus. Les dominicains, merci. Les dominicains, les franciscains de Saint-François, évidemment. Bref, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et encore une fois, tout ça s'étale sur 2000 ans d'histoire. Donc c'est absolument passionnant. Moi, j'adore, hein, l'histoire du christianisme, l'histoire du judaïsme, l'histoire de l'islam aussi. Il y a un youtubeur qui s'appelle Averroes. Je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Averroes, qui est un youtubeur spécialisé dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Et c'est fascinant. Il vulgarise super bien. J'ai appris un nombre de trucs incalculables grâce à lui. Sur les chiites, les sunnites, les turcs. Est-on seulement certain de l'existence historique de Jésus et de son poids réel ? Alors le « on », je ne sais pas qui ça désigne pour toi, mais quand tu dis « on », est-ce qu'on est sûr que Jésus a existé ? Pour les historiens, académiciens, qui travaille sur des documents et sur une méthode scientifique critique, etc., la réponse est oui, Jésus a bien existé. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Hein. Il existe néanmoins, depuis le 19e siècle, 18e, 19e siècle, une thèse selon laquelle Jésus n'aurait jamais existé. Elle a été développée par notamment des penseurs, pour certains républicains anti-religieux qui voulaient démonter le christianisme, pour justifier l'affaiblissement de l'Église catholique dans un contexte républicain. Et aujourd'hui, l'un de leurs représentants contemporains, c'est un certain Michel Onfray, philosophe célèbre sur les plateaux télé, qui a sorti un livre expliquant que Jésus n'a jamais existé. Le livre de Michel Onfray a été démonté, pièce, par tous les historiens sérieux que compte ce pays. Voilà. Donc, maintenant que je t'ai dit ça, tu fais ta propre opinion, toujours pareil. Hein. Est-ce que la Terre est plate, est-ce que la Terre est ronde ? C'est à toi de voir ce que tu as envie, ce que tu préfères. Hein. Voilà. Après, la distinction entre le Jésus historique et le Jésus spirituel, mythique et littéraire. Non, mais ça, c'est sûr. Moi, je parle bien du Jésus. Je parle bien du Jésus physique, du bonhomme. Est-ce qu'il y avait un mec dans la Palestine du 1er siècle qui était juif, qui répondait au nom de Jésus ou Jésus ou Yahweh, ça dépendait si tu le faisais en grec, en araméen, etc. Mais est-ce qu'il a existé un mec à ce moment-là qui a été crucifié? La réponse est oui. Voilà, ça a existé. Il y a bien eu un mec qui a été crucifié par les autorités romaines, etc. Machin. Ça, on le sait. Après, est-ce que ce mec, c'était le fils de Dieu? Ça, c'est pas une question scientifique. C'est pas une question scientifique du tout. Ça appartient à la foi. Ça appartient au domaine de la foi. On peut croire ou ne pas croire, mais si on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le domaine du savoir. Et ça, les scientifiques n'ont pas à répondre à la question de savoir si Jésus c'était Dieu ou pas. Non. Ça, c'est les chrétiens se chargent de dire que pour eux, oui, c'était le Fils de Dieu envoyé sur terre pour racheter les péchés, tout ça, tout ça. Est-ce que ce mec est revenu vivant après sa mort? Voilà, pareil, pareil. La résurrection de Jésus, je vous rappelle que 3 jours après sa mort, Jésus est revenu. Avant de, il n'est pas resté très longtemps, puis il est remonté au ciel. Est-ce que cet épisode-là a existé? On n'a aucune preuve scientifique que ça a existé. Aucune. Les chrétiens disent que ça a existé, et les chrétiens y croient. Mais c'est leur problème. Enfin, ils ont le droit. Et bon. Est-ce que Bouddha a atteint le septième firmament, là, ou je sais plus quoi, le septième stade, machin? J'en sais rien, je sais pas. Il y en a qui le croient. Le nirvana, voilà, c'est ça, le nirvana. Est-ce que Bouddha a atteint le nirvana? Aucun scientifique ne s'est jamais prononcé sur ce sujet, c'est pas la question, c'est... Si vous voulez y croire, vous pouvez. Le septième ciel. Mais le septième ciel, c'est une référence biblique? Ou... J'en sais rien, c'est possible d'ailleurs, ça vient d'où le septième ciel? C'est biblique, c'est pas bouddhique. Mais c'est l'enfer. Non, l'enfer de Dante. L'enfer de Dante, c'est les niveaux de l'enfer sous la terre, donc tu descends. Mais la montée au. Je sais pas. C'est peut-être un truc en rapport avec Jésus, les anges, le paradis céleste. J'en sais rien, je sais pas. Allez, on va demander à Joujol. On va demander à Joujol. Ok, donc il y a une série qui s'appelle Septième Ciel. On est bien content. Alors, Wikipédia nous informe, mesdames et messieurs, que outre la voûte céleste composée d'étoiles dont l'organisation semblait fixe, les astronomes babyloniens avaient vite remarqué 6 autres corps dont le mouvement n'y était pas asservi, et parfois même rétrograde. Le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Afin d'expliquer leur mouvement, ils avaient associé à chacun un ciel. Cette vision des choses fut reprise par Ptolémée et perdurera jusqu'à Nicolas Copernic. Ça vient de là. Putain, on a appris un truc de ouf! Comme ils n'arrivaient pas à expliquer que les étoiles bougeaient pas dans le ciel alors que les planètes, elles bougeaient, ils se sont dit, chacun doit avoir son niveau de ciel. Du coup, les disques ne bougent pas tous au même moment. Ça expliquerait du coup pourquoi il y a des planètes, on a l'impression qu'elles reculent dans le ciel alors qu'en fait elles devraient avancer. Pendant le modèle géocentrique. Donc ça, c'était les astronomes babyloniens qui ont théorisé cette idée qu'il y a 7 ciels, le septième étant la voûte sur laquelle sont mises les étoiles. Ptolémée a repris cette vision et ça a perduré jusqu'à Copernic. Mais, parce que Ptolémée, tout ça, c'est avant le christianisme. Quel est le rapport avec le christianisme? Eh bien, le christianisme, lui aussi, a été touché. Et on apprend par Wikipédia que dans la mystique juive et chrétienne, donc probablement l'Ancien Testament, le septième ciel est appelé l'Arabot. Et il est dirigé par l'archange Cassiel. Le septième ciel est appelé Arabot et il est dirigé par l'archange Cassiel. Le Coran fait allusion à plusieurs reprises à sept cieux. Dans la Sourate 2, verset 29, je cite, « Il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. » Fin de citation. Pas mal. Bah, on a appris un truc aujourd'hui. Ça date des Babyloniens, et puis ensuite ça a infusé dans toute la pensée antique, jusqu'à Copernic, en passant par les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans. Les sept ciels. Et du coup, pourquoi c'est du cucu ? Et du coup, non, parce que moi, non, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire septième ciel, c'est une expression qu'on utilise pour parler de sexe. Enfin, on est dans la sexualité, enfin, on est dans le. Je vais pas vous faire un dessin, quoi. Voilà, le septième ciel, quoi. Alors, quel rapport avec la Bible ? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens, ils font l'amour avec la Bible sous l'oreiller. Du coup, j'en sais rien, je sais pas. Tu verras les étoiles. Je vais te faire voir des étoiles. Donne-moi ta Bible, grand fou. Le rapport, c'est d'atteindre le septième ciel, et puis c'est tout. Non, mais oui, j'ai bien compris. Effectivement, c'est l'idée de monter tellement haut dans l'extase. Encore une fois, j'essaye de ne pas être trop explicite, parce qu'il y a des enfants qui regardent. Monter suffisamment dans l'extase que l'on atteint, on atteint jusque le septième ciel, soit le plus haut du plus haut du plus haut atteignable. Mais maintenant qu'on sait que l'univers est en expansion, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de notre quête de plaisir ? Parce qu'en fait, les sept ciels, c'est assez bas quand même. On pourrait monter plus haut. Chérie ? Non, je déconne, il n'y a pas de chérie, c'est une blague. j'arrête. Dilate-moi la voie lactée. Stop. Non, c'est non, c'est stop. C'est... Non, ça suffit. Ça suffit. C'est fini. Vous arrêtez. On a appris des trucs. C'est cool, on a appris des trucs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que ça vous a plu, Backseat, hier soir ? Backseat hier soir avec le quiz à la con spécial bagnole. Le quiz à la con spécial bagnole. Roland Lescure en invité politique. Tout ça. On a atteint le septième ciel sur Backseat hier soir. Merci. Quiz à la con annulé. Ah putain la vache, j'avais oublié. Parce que pour vous expliquer ce qui s'est passé hier soir, quand même faut que les gens percutent. Attends, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le déroulé de l'émission, qu'on appelle aussi le conducteur, voilà. Le conducteur de l'émission, c'est un document partagé que je prépare avec François, qui est le journaliste programmateur de l'émission, et sur lequel se trouvent absolument toutes les informations de l'émission, avec des horodatages, avec des heures, avec des repères visuels, avec des infos, avec des détails, des trucs comme ça et tout. Et ce document, on le construit en partie à partir de la réunion qu'on a le mercredi matin avec les chroniqueurs pour préparer l'émission de Backseat. Le conducteur, c'est un document qui est fait pour moi et pour moi seul. Il n'y a que moi qui ai besoin de l'avoir sous les yeux, les chroniqueurs n'en ont pas besoin. Mais François le partage, le document, avec les chroniqueurs. En général, genre le mercredi soir ou le jeudi midi, il peut leur envoyer le conducteur pour que les gens retrouvent et tout machin. Et normalement, il n'y a pas le quiz à la con dans le conducteur. Enfin, si, il y a le quiz à la con dans mon conducteur. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir le quiz à la con dans le conducteur qui est envoyé au chroniqueur. Et visiblement, je ne sais pas ce qu'on a fait hier, mais on s'est planté. On s'est planté. Et on a envoyé le conducteur au chroniqueur avec le quiz à la con dedans, avec les réponses. Et Émilien est le seul à l'avoir lu. Émilien, il a regardé le conducteur, parce que c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui travaille, qui prépare ses émissions backseat sérieusement. Et du coup, il a lu le conducteur et il a vu les réponses et a fait bah du coup j'ai toutes les réponses. Et il a rien dit pendant tout le quiz à la con. Il a rien dit pendant tout le quiz à la con. Il était là, il était souriant, il faisait même semblant des fois d'hésiter. Et à la fin du quiz à la con, dans l'oreillette, il y a François qui me dit. Le vainqueur du quiz à la con, parce que François il compte les points du quiz à la con, il me dit le vainqueur c'est Émilien qui a réalisé un perfect et c'est le premier perfect depuis le début de la saison. Donc, moi tout content, j'annonce à Émilien tout sourire bravo, tu as gagné le quiz à la con, tu as réalisé un perfect, félicitations. Et il me dit bah ouais, c'est normal, j'avais toutes les réponses. Putain. Terrible, terrible. Quelle erreur de la prod. Tricheur mais sincère. Ah non, mais c'était mythique comme moment. Attends, je vais essayer de retrouver le moment justement. Comment je fais pour avoir accès au replay, moi? Ah mais non, je suis con, je suis abonné à la chaîne Twitch de Jean Massier. J'ai donc accès à tous ces replays des 3 derniers mois. Zou.
Servait. Donc la voilà, cette question qui m'obsède, le mot est faible. Depuis
Ça,
maintenant,
c'est les cartes
qu'est-ce que
blanches. Ça, c'est les bagnoles.
Non, non, vous avez merdé, les gars, vous avez juste.
Et si elle est aussi contente des ZFE?
Personnalité on chauffeur pour pouvoir.
Qui coursait. Est-ce que je peux un mot pour mec?
Une vire qu'en plus il prenait les nationales.
Et il devait éviter les biches.
Et oui, éviter les biches parce que derrière il y avait Najat Al-Belkacem qui faisait poitrine.
Qui coursait pour ça du rugis.
Donc voilà, c'est donc une victoire d'Emilien avec 5 points.
Wow.
C'est le premier sans faute. C'est la première fois de la saison qu'il y a un sans faute sur un quiz à la con.
Est-ce que je peux un mot pour mes camarades?
Oui, vas-y.
J'aimerais leur dire quand même que s'ils veulent un peu s'améliorer, il faudrait juste qu'ils regardent le conducteur de l'émission sur lequel il y avait déjà les questions et les réponses avant le début de l'émission.
Bah
c'est
oui,
vrai
mais...
Quoi?
Mais ça, moi, je le sais. C'est pour ça que du coup, je regarde jamais
attends,
le conducteur.
Bah ouais.
Attends,
mais c'est moi, je joue.
Ça invalide tout. Faut le virer, Chiabodo, là.
Attends, mais ils t'ont partagé non, le Google Doc où il y avait les questions?
Bah, ils l'ont mis dans le Google Doc normal.
Tu l'as lu? T'as lu les réponses?
Oui.
Et nous, on lit pas.
Et je les ai... Et ils ont changé, dernière minute, les filous. Une question, ils ont changé C en B.
Non, parce que, non,
et mais, tu as appris les réponses par cœur pour nous niquer?
Oui.
Mec,
c'est incroyable. Que... Putain, même moi, j'ai pas osé.
Là, y a...
Alors,
donc,
je sais
déjà,
que
ça nous informe que vous lisez pas le conducteur.
Mais
ça fait
c'est
plaisir.
Ça.
Mais surtout, c'est... parce que là, dans l'oreillette, ils sont en train de me dire non, mais il est de mauvaise foi, etc. J'ai dit non, vous avez merdé, les gars. Vous avez juste envoyé les questions du quiz à la con.
Et j'étais là au début. Non, mais écoute pas ce qu'on dit. Là, on est sur un truc exceptionnel. Il va beaucoup te plaire, les bagnoles. Pourquoi? Mais voilà.
Disqualifié. Du coup, on me confirme que tu es disqualifié. T'es disqualifié. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents, Régis. Est-ce qu'ils ont merdé? Ils sont pas contents.
Ouais, non.
J'avais François dans l'oreillette qui me disait disqualifié. Disqualifié. Non, mais François, t'as merdé. Tu peux pas. Non, non, c'est niqué. Hein. Donc voilà. Donc, ouais, effectivement, accident industriel quand même dans la production de l'émission Backseat. Un chroniqueur dont je tairai le nom a eu en avance les réponses du quiz à la con. C'est la première fois que ça arrive de l'histoire de Backseat. Voilà. L'arbitre a toujours raison. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, non, c'était. Mais c'était très marrant. Alors, pour le coup, le quiz des bagnoles, c'est. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo, le quiz des bagnoles. Parce qu'en fait, on essaye de. Enfin, je dis on essaye. C'est François et. C'est François et François, parce qu'il y a deux François dans l'équipe de Backseat, de l'équipe de production, qui essayent de chaque semaine trouver un thème en lien avec l'actualité pour le quiz à la con. Genre, on a fait un quiz à la con spécial Saint-Valentin, quiz à la con spécial 1er avril, quiz à la con spécial printemps. Enfin voilà, on essaye de trouver un thème en lien avec ce qui se passe autour, machin et tout. Et cette semaine, on n'avait pas de thème et apparemment, ils ont... C'était quoi leur délire ? En fait, c'est ça. Ils ont voulu faire un thème sur l'espace parce que Katy Perry s'est rendue dans l'espace. Vous avez dû suivre Enfin, vous avez dû avoir la news. Katy Perry est allée dans l'espace avec le truc de Bezos, là. Blue Origin, ça a fait gueuler tout le monde parce que la pollution, la planète, tout ça. Et sauf qu'en recherchant des questions sur l'espace, ils sont tombés sur la Renault Espace. La Renault Espace de Ségolène Royal, et ça les a fait marrer, et ils se sont dit, viens, on fait un quiz spécial bagnole. Voilà, c'était ça le processus créatif du quiz à la con cette semaine, ça a été ça. On part de l'espace et de Katy Perry, et on arrive sur Eva Jolie. Oui, c'est ça, c'était pas Ségolène Royal, c'est Eva Jolie et la Renault Espace. Donc on a fait un quiz à la con spécial bagnole. Voilà. Non, vous voyez, c'est un métier. Hein. Non, ça a fait gueuler parce qu'elle y était pour faire la promotion de l'écologie. Ah, putain, j'avais pas suivi ça. Faut dire que j'en avais pas grand chose à battre. J'avais pas suivi que Katy Perry avait habillé son voyage d'un discours de sensibilisation sur l'écologie. Ouais. Effectivement, c'est... Oui, d'accord. Disons que ça ne change rien à l'opinion que je me faisais de cette histoire. Ça la renforce même plutôt. C'est un pur troll, non ? Bah, je sais pas, il y a quelqu'un dans le chat. C'est une info de chat ? Ah, c'est peut-être une info de chat, hein ? Putain, vous allez me forcer à lire un article sur Katy Perry pour vérifier si oui ou non. Elle a quand même pas fait ça. Alors, Katy Perry dans la fusée de Jeff Bezos. La vedette de la pop américaine a décollé ce lundi du Texas pour un bref vol suborbital 100% féminin à bord du lanceur privé de Blue Origin. Quelques minutes à plus de 100 km d'altitude avant de revenir sur Terre. Voilà Katy Perry. Après le capitaine Kirk, la California Girl, la fusée Blue Origin du multimillionnaire Jeff Bezos, court après les célébrités pour les propulser dans l'espace, histoire de rester dans la course du tourisme spatial. Cette fois, après William Shatner, l'incontournable commandant du vaisseau de Star Trek, qui en 2021, à 90 ans, était devenu le plus vieil homme dans l'espace, le lanceur spatial et du propriétaire d'Amazon a recruté la chanteuse Katy Perry pour faire un tour en apesanteur, et celle qui est devenue célèbre en 2008 avec son hit I Kissed a Girl ou sa chanson California Girl, n'est que la vedette d'un équipage 100% féminin dans lequel on trouve la fiancée de Bezos lui-même, Laura Sanchez. Quatre autres femmes avaient pris place dans la capsule qui s'est envolée ce lundi après-midi à 15h30, heure de Paris, depuis l'ouest du Texas. Carianne Flynn, producteur de films, Amanda Nguyen, fondatrice d'une ONG engagée dans le combat pour les violences sexuelles, contre les violences sexuelles, Aisha Bo, une ancienne scientifique de la NASA, et l'animatrice de télévision Gayle King. D'accord, aucune d'entre elles n'était cependant aux commandes de l'engin entièrement automatisé. La fusée a décollé à la verticale et la capsule dans laquelle avait pris place Katy Perry et ses comparses s'est détachée en vol avant de retomber sur Terre, freinée par des parachutes et un rétropropulseur. Entre-temps, durant une dizaine de minutes, les six passagères avaient dépassé la ligne Kármán, qui marque à 100 km d'altitude la frontière de l'espace, selon une convention internationale. De quoi se détacher de leur siège et flotter brièvement en apesanteur. Avec ce 11e vol habité suborbital, le premier 100% féminin, depuis celui solitaire de la soviétique Valentina Tereshkova en 1963, Blue Origin vise évidemment le coup de pub qui lui permettra de garder avec sa fusée New Shepard une longueur d'avance sur Virgin Galactic qui propose également des vols suborbitaux et de s'approcher des vols en orbite du SpaceX avec du non moins trumpiste Elon Musk. Autant d'expériences touristiques spatiales dont le prix n'est pas rendu public. Dans une récente interview accordée au magazine Elle, Katy Perry expliquait en mode étoile dans les yeux matinée d'empowerment prendre part à une aventure pour sa fille Daisy qu'elle a eue avec le célèbre acteur britannique Orlando Bloom afin de l'inciter à ne jamais se fixer de limite à ses rêves. C'est bien. Je suis tellement impatiente de voir l'inspiration et la lumière dans les yeux quand elle verra la fusée partir et qu'elle retournera à l'école le lendemain en disant « Maman est allée dans l'espace », expliquait la chanteuse. Quelle mère incroyable. Bah, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, t'aurais pu laisser ta fille aller dans l'espace à ta place, tu vois. Non, parce que c'est comme si tu laissais ton gamin sur le côté pendant que toi, tu fais un saut en parachute en disant « je fais ça pour inspirer mon enfant ». Bah... Voilà. Donc, le greenwashing semble être effectivement une info-chat. Il n'y a rien dans cet article qui met en avant, de quelque manière que ce soit, un message un tant soit peu écolo de la part de qui que ce soit dans le processus. On est sur un vol 100% féminin, donc on se doute qu'il y a un espèce de message derrière, de empowerment féminin, tout ça, machin, très bien. Et pour ce qui est de Katy Perry, elle parle de... inspirer sa fille, mettre de la lumière dans ses yeux, voilà. Ne fixe pas de limite à tes rêves, ma chérie. Après, j'ai lu qu'un seul article. Hein. Je pense pas que je vais faire des recherches très poussées. Parce que j'en ai quand même globalement pas grand-chose à foutre, hein, on va pas se mentir. Ça ne retire rien à ce que je pense déjà de cette petite aventure. Ne pas parler du désastre écologique, c'est déjà du greenwashing. Oui, alors, bon, la compétition entre les luttes, c'est de la merde, ça l'a toujours été. Non, je voulais vous montrer un truc parce que... J'espère que t'es montré dans le grand 8 du parc Astérix pour montrer à tes neveux que c'est cool. Ouais, au parc Astérix, j'ai exactement fait ça. Moi, je suis monté dans le grand 8 tout seul et j'ai dit à mes neveux, vous restez sur le côté, vous me regardez. Vous faites coucou quand je passe. Non mais ouais, alors je suis allé au parc Astérix mercredi dernier avec mes neveux et nièces et ma maman pour m'occuper d'eux, tout ça. Et je vais pas vous raconter ma journée, tout le monde s'en branle, moi le premier, mais c'était très sympathique. Surtout, j'étais pas allé au parc Astérix depuis 20 ans, au moins 20 ans. Et encore 20, peut-être même 25 ans. Mais j'ai quand même pensé à vous. Parce que y en a dans le chat qui sont jamais allés au parc Astérix de leur vie ou pas. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont jamais allés au parc Astérix ou à Disney, aucun des deux Ouais, il y en a. Ouais, d'accord. Okay. Alors, j'arrive pas à savoir le niveau de notoriété du truc. C'est pour ça que je voulais vérifier. Pour ceux qui connaissent pas du tout le parc Astérix ou Disneyland Paris ou autres parcs d'attractions de 6 places, ce sont donc des parcs d'attractions dans lesquels vous allez trouver tout un tas d'activités à faire pour un public familial. C'est complètement pensé et je trouve très bien fait pour faire passer des bons moments à des familles intergénérationnelles, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les frères, les sœurs et tout. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Il y a des attractions, donc il y a beaucoup d'attractions, notamment des grands 8. Il y a des grands 8 très spectaculaires pour les amateurs de sensations fortes. Il y a des petites montagnes russes toutes mignonnes pour les petits-enfants tout mignons. Il y a des trucs intermédiaires, vous avez des spectacles. Vous avez des animations de rue, en fait, des spectacles de rue autour du thème d'Astérix, en l'occurrence, c'est le parc Astérix. Vous avez des boutiques, vous avez des restaurants, fast-food, vous avez des baraques à frites, vous avez absolument tout ce que vous voulez pour passer une bonne après-midi, machin et tout. Donc c'est ça le concept. Et l'autre concept, c'est qu'un thème, un parc comme le parc Astérix ou le parc Disneyland sont 100% thématisée autour de l'œuvre, en l'occurrence soit Astérix, soit Disney. Et pour ce qui est du parc Astérix, l'intégralité du parc Astérix correspond au lore des BD d'Astérix. Donc vous avez un village gaulois, vous avez une forêt avec des sangliers pour idée fixe, vous pouvez vous promener, où il y a des trucs, vous pouvez, il y a des activités, il y a plein de trucs à faire. Vous avez tout un espace sur le thème de la Grèce antique, vous avez tout un espace romain, vous avez même un faux Colisée qui a été refait. Vous avez tout un espace sur l'Égypte antique pour Mission Cléopâtre. Enfin voilà. Et donc à chaque fois, donc c'est un peu comme des quartiers dans une ville, vous voyez, vous vous baladez et tout avec les enfants, avec la poussette et tout, et puis vous faites des attractions, machin. Et tout est thématisé, y compris les boutiques, y compris les bâtiments, tout est fait exactement sur le modèle de ce que vous pouvez retrouver dans les BD, avec le même ton et tout. Donc, pourquoi je vous ai fait cette longue introduction ? Pour vous dire que j'ai quand même réussi à penser à vous, à un moment, dans le parc. J'ai tourné la tête, j'ai vu un truc, je me suis dit non. Oh non, ils ont pas fait ça. Eh ben si. J'ai dit à ma mère, prends-moi en photo, s'il te plaît. Ouais, je t'expliquerai. Mais faut que je monte ça au chat. Faut que je leur montre. C'est juste, ils ont vraiment fait une blagounette qu'il y a à peu près que Jean Massier qui peut rigoler. ils sont allés au point de faire la blagounette du Palais Bourbon en Palais Bonbon. Avec le péristyle, etc. Enfin, c'est exact, avec les colonnades et tout, c'est le Palais Bourbon. Hein. C'est très assumé de faire le Palais Bourbon, qui est donc l'Assemblée nationale. Et ils ont fait le Palais Bonbon. Et à l'intérieur, c'est pas une blague, à l'intérieur, c'est une boutique de bonbons. Hein. Ils ont... C'est très premier degré pour eux. Hein. C'est une boutique où tu peux acheter des bonbecs. Des bonbecs à la forme d'Astérix, d'Obélix, tout ça. Voilà. Je me suis dit, il faut quand même que je le montre au chat, ça, parce que MDR. MDR. Monsieur Massier, ça fait 15 ans qu'on vous attend. Non, mais c'est ça ce que je veux dire, en fait. J'essaye de... La quantité astronomique de gens qui, depuis des décennies, passent devant ce Palais Bonbon sans comprendre la ref qu'il y a derrière. Et je me dis, putain, mais il n'y a que les mecs comme moi qui rigolent devant ça. Enfin, si on dit, on n'est pas très nombreux en France à faire le lien tout de suite, Palais Bourbon, Palais Bonbon. Il faut le connaître, le Palais Bourbon. En plus, c'est même pas très connu, le Palais Bourbon. On connaît l'Assemblée nationale, ça, on connaît. Enfin, on connaît, on a déjà entendu, en tout cas. Palais Bourbon, je pense que la plupart des Français sont absolument pas au courant que l'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon, qui s'appelle le Palais Bourbon. Je sais pas. Je la connais depuis que je traîne ici. Non, mais voilà, c'est ça. C'est le genre de rêve qu'il y a sur ma chaîne. Mais c'est pas sur les autres chaînes Twitch, tu vois. Il y a que moi pour vous donner cette info-là. Tout le monde s'en branle, en plus, de où siège l'Assemblée nationale. C'est même pas important. Ça change rien. Donc voilà, donc Palais Bourbon, Palais du Luxembourg, Assemblée nationale, Sénat, voilà, maintenant vous le savez. Donc voilà, donc j'ai adoré cette ref-là. Et il y a un autre truc que j'ai vu. Alors pour le coup, j'ai pas pris de photo. C'est le spectacle... Le spectacle de plongeon, parce que pour ceux qui ont raté la ref, voilà, tiens, je vais ouvrir ça. Pour ceux qui n'ont pas la ref, au parc Astérix, l'une des attractions phares du parc depuis longtemps, c'était un delphinarium. Il y avait un delphinarium au parc Astérix avec des dauphins. Vous savez, les delphinariums, comme dans Il faut sauver Willy. Bon. Donc, il y avait un delphinarium. Et moi, j'ai des souvenirs, quand j'étais enfant, d'avoir vu le spectacle du delphinarium du parc Astérix. Et en fait, le delphinarium a fermé. En 2021, le parc Astérix a pris la décision de fermer le delphinarium. À un moment où un certain nombre d'ONG étaient en train de se mobiliser pour obtenir la fermeture des delphinariums en France, pour des raisons de la cause animale. C'est un peu, disons que Disons que les delphinariums, pour ceux qui n'ont jamais vu un delphinarium, c'est un bassin dans lequel il y a des dauphins, il peut y avoir des orques, il peut y avoir des phoques, il peut y avoir des baleines, il peut y avoir plein de trucs, et il y a des spectacles qui sont organisés. Je suis sûr que vous avez déjà vu au moins rapidement des images de trucs comme ça, et ça existe depuis quelques décennies. Je pense que c'est les années 60-70, à mon avis, les premiers delphinariums. Il y a eu un grand pic dans les années 80-90, et puis depuis les années 2000, bah, c'est un peu passé de mode, les delphinariums, notamment parce que la cause animale est devenue de plus en plus quelque chose pris au sérieux par beaucoup de personnes, et notamment des militants dans des ONG. Donc, on voit des delphinariums fermés les uns après les autres, ce qui, je pense, est une assez bonne chose. Mais bref, le parc Astérix, ils avaient un delphinarium dans lequel il y avait des spectacles de dauphins, je m'en souviens très bien. Et en 2021, le parc Astérix a fermé son delphinarium et ils n'ont pas voulu casser l'équipement qu'ils avaient. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire autour de la flotte, machin ? Ils ont dit, on va faire un spectacle de plongeon. Et donc moi, je me suis retrouvé avec mon neveu dans le parc Astérix comme ça, en train de marcher et tout. J'ai ma mère au téléphone, qui elle s'occupe de la petite, et ils sont sur une autre attraction à l'autre bout du parc, machin et tout. Elle me dit, bah écoute, là on est dans la file d'attente, on doit bouger. Toi, vas-y, fais une autre attraction avec le petit, on se retrouve tout à l'heure. Et à ce moment-là, je passe devant l'entrée du spectacle de plongeon. Et je dis à mon neveu, bah tu veux qu'on aille voir ? Il me dit, bah ouais, c'est quoi ? Je dis, je sais pas. C'est une interdiction légale, les delphinariums, depuis 2020. Ah, ceci explique celle-là. Ah, mais vous avez raison, putain, j'avais... Mais oui, j'avais oublié, mais oui, il y a une loi qui a été votée qui restreint la possibilité d'avoir des delphinariums et qui rend le truc quasiment impossible en France. Donc, du coup, il n'y a plus de delphinariums. Ah, mais oui, donc du coup, le parc Astérix n'a fait que se conforter à une décision législative. D'accord. Right. Et donc voilà. Et donc le parc Astérix, pour remplacer le delphinarium, ils ont créé un spectacle sur le thème du plongeon. Et voilà à quoi ça ressemble. Et moi, je suis allé voir ce truc avec mon neveu. Et je me suis dit, mais attends, en plus, c'est pas très long. Hein. Je crois que c'est 20 ou 30 minutes. Je crois que c'est 20 minutes le spectacle. Non, c'est 20 minutes. Un spectacle de 20 minutes sur le thème du plongeon. Enfin, avec des plongeurs. Et moi, je me disais, mais ça va être chiant, non ? Ça va être giga relou. Et bien, figurez-vous que pas du tout. J'ai été giga agréablement surpris par le truc. Franchement, il y a quand même des gens hyper talentueux hein, dans les équipes du parc Astérix qui sont capables de te pondre un spectacle en 20 minutes dans lequel il y a une histoire qui est racontée. Il y a des blagounettes un peu sympas sur le thème d'Astérix. C'est marrant à voir, il se passe des trucs en permanence, c'est chouette, les gens sont hyper talentueux, et ils te racontent une petite histoire, c'est un affrontement entre deux équipes de plongeurs, entre les Grecs et les Romains, tu choisis la team grecque ou la team romain, et moi vraiment, non, j'étais en mode, putain mais les mecs sont bons en fait, c'est hyper chouette, j'ai passé un bon moment. Et voilà. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'encore une fois, je suis en train de vous raconter mon voyage au parc Astérix et tout le monde s'en branle, mais il y a un moment où j'ai quand même pensé à vous, c'est que l'animateur du spectacle, c'est celui que vous voyez en bas, là, qui est habillé en romain. Il est habillé en romain avec une toge rouge et tout, machin, avec des claquettes, machin, en romain. Et il anime le spectacle à plusieurs reprises il demande au public de jouer avec lui. Par exemple, il fait voter le public pour savoir si on préfère les Grecs ou les Romains pour le plongeon, machin, tout ça. Et il y a un moment où je me souviens que je sais plus en fait, je crois que c'est son entrée en scène au tout début où il dit bonjour au public et il se présente en faisant ça, en faisant un salut romain. Et moi, à ce moment-là, je tourne ma tête sur le côté et je vois dans le public qu'il y a genre deux ou trois personnes qui font... qui tendent le bras. Et moi, vraiment, ça m'a fait... J'étais en mode, oh putain la vache. J'ai vraiment revu. Vous vous souvenez la célèbre photo de la foule avec le salut nazi, là ? Putain, j'essaie de retrouver. Voilà, celle-là. J'ai littéralement vu ça. J'étais en mode, waouh, ça fait bizarre quand tu le vois d'un coup, mais ça n'a rien à voir et c'est complètement fortuit et ça n'a rien. Enfin, c'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, si, un peu, mais pas du tout. Mais donc voilà. C'est vraiment les Jeux Olympiques de 36, quoi. Oui, c'est ça. Et vraiment, ça a été en une fraction de seconde. J'ai tourné l'œil, j'ai vu un espèce de monsieur qui était là avec ses enfants, qui faisait coucou. Parce qu'il dit, en fait, tu fais la même chose que ce que fait le présentateur. Donc, le mec, il te fait coucou, bah, tu lèves le bras comme lui. Donc, voilà, je me suis dit, il faut que je vous le raconte ça aussi, parce que putain. Oh. Ça, voilà, ça m'a fait très bizarre. C'était bien un salut Romain. C'était bien un salut Romain, mais voilà, vous connaissez comme moi le contexte. Vous connaissez comme moi le contexte qui fait que le salut Romain, depuis 1929 à peu près, c'est devenu un peu de la merde. Et j'ai 29, c'est même pas ça, parce que la création, le parti nazi, c'est 1924, je crois. Enfin bref. Tu devrais essayer une sponso du Puy du Fou. Alors, le Puy du Fou, je pense que ça m'aurait fait encore moins marrer. Parce que le Puy du Fou, je me serais dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans le tas qui prend ça premier degré, tu vois. À propos des nazis, vous me faites penser à un truc. À propos des nazis. Parce que quand je regarde le chat, je pense aux nazis. Je sais pas pourquoi. Non, je déconne. Non, je déconne, mais. À propos des nazis, je vais vous montrer un truc. C'est assez intéressant parce qu'il m'arrive un truc marrant en ce moment. Il faut que j'aille sur mon Insta. Donc, vous suivez mon Insta ? Vous devriez. Hein. Hop. Il y a une vidéo de moi sur le média Move. Vous connaissez Move, la radio des jeunes, trop de la balle de Radio France, là. Move, ils m'ont invité il y a 3 mois pour parler, pour faire une interview un peu globale sur plein de sujets et tout. Ils m'ont invité dans la matinale. Autant de vous dire, je me suis levé très très tôt pour aller sur Move. Mais comme je les aime très fort, je le ferai toujours. C'est pour ça que vous allez voir que je suis pas très bien coiffé, c'est parce que je sors littéralement de mon lit. Et ils m'ont posé une question, le Move. Enfin, Move, on dit maintenant, pardon. Et ils m'ont dit, c'est quoi ce que tu détestes le plus entendre en politique ? Ils m'ont fait une proposition de plusieurs phrases. Un truc qui t'énerve le plus. Et moi, j'ai dit, bah, en fait, la phrase qui m'énerve le plus, c'est l'extrême droite, on n'a jamais essayé. L'extrême droite, on n'a jamais essayé. Et donc, j'ai fait une réponse qui s'est retrouvée sur Insta. Je vous propose qu'on l'écoute.
C'est une phrase qui est fausse. On a déjà essayé l'extrême droite en France. Elle a une histoire. Elle a été au pouvoir à certains moments du 19e siècle où il y a eu des restaurations. Hein. On a laissé tomber la Révolution. On a remis des rois. L'extrême droite, elle a été au pouvoir en France entre 1940 et 1944. Elle a collaboré avec le régime nazi. Et l'extrême droite, ensuite Front National puis Rassemblement National, ils ont des élus, ces gens-là. Ils sont pas étrangers au monde politique français. Ils ont des mairies. Ils ont des conseillers régionaux. On sait ce qu'ils pensent. On sait ce qu'ils votent. Donc on sait. Enfin, je veux dire, il y a pas de mystère. Mmh. On sait qui c'est l'extrême droite en France.
On peut regarder ce que ça donne, quoi.
Bah oui, on peut en penser quelque chose. On peut pas dire, ah, on sait pas. Ah bah si, on sait. Si, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils votent, on sait ce qu'ils veulent, ils ont des programmes, ils présentent des candidats à des élections, ces gens-là. Donc voilà, non, l'extrême droite, on n'a jamais essayé, ça n'existe pas, c'est pas vrai, on n'a pas jamais essayé l'extrême droite. Et puis par ailleurs, on n'est pas une île déserte, hein. Il y a des pays autour de nous. Il se passe quand même 2-3 trucs dans 2-3 pays autour de nous. Voilà, on a Poutine, on a Trump, on a des pays en Europe aussi qui sont touchés par l'extrême droite, Mélanie en Italie, etc. Donc non, l'extrême droite, on n'a jamais essayé, ce n'est factuellement pas vrai. C'est de la paresse intellectuelle de dire ça.
RN, on n'a jamais essayé. Voilà. Bon, il parle bien, le monsieur. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'adore. Hein. Franchement, super sympa. Hein. Et le truc, c'est que donc cet extrait-là, tout à fait banal. Hein, là, ce que je dis, c'est une espèce de truc classique que vous m'avez déjà entendu dire plein de fois. C'est pas, enfin, voilà. J'ai même pas l'impression de dire un truc particulier. Mais depuis le début décembre dernier, tous les jours, je reçois des dizaines de commentaires sous ce post dans lequel je suis tagué, donc je reçois tous les commentaires. Des commentaires d'extrême droite, semble-t-il, de personnes qui ne sont pas du tout contentes de ce que j'ai dit là, et qui en font des caisses en expliquant que ce que je dis est faux, puisque les nazis étaient de gauche, et les commentaires et les collaborateurs étaient socialistes et communistes. Donc l'extrême droite n'a pas collaboré avec le nazisme. L'extrême droite, elle était dans la résistance à un mouvement communiste et socialiste qui s'appelait le nazisme. Et alors évidemment, vous connaissez les ficelles argumentaires qui sont toujours les mêmes. François Mitterrand a reçu la Francisque des mains de Philippe Pétain, ce qui a été révélé dans les années 90. Un certain nombre de responsables d'extrême droite de ces années-là venaient initialement de la gauche. C'est le cas de Doriot, c'est le cas de Mussolini, c'est absolument pas le cas d'Adolf Hitler, mais certainement certains dignitaires nazis, Marcel Déa évidemment, certains dignitaires nazis venaient peut-être de mouvements quand ils étaient jeunes et tout. Pierre Laval était un ancien avocat des ouvriers, tu vois, c'était un mec de gauche, Laval, quand il était jeune. Et donc c'est un argumentaire qui justifie le fait de dire c'est bien la preuve que le nazisme était de gauche, puisqu'il y a des gens qui sont issus de la gauche qui y ont participé. Donc voilà. Et ça me fascine parce que je me dis, encore une fois, je ne sais que trop bien comment fonctionnent les bulles de filtre sur Internet. Je sais bien que je suis dans une bulle, que vous êtes dans une bulle, qu'on est tous dans une bulle et qu'on est convaincus d'avoir raison parce qu'on ne s'entend parler que nous-mêmes et tout. Donc, hein. Mais il y a des gens à l'intérieur des bulles dans lesquelles on évolue qui ont un rapport au monde qui est tellement radicalement différent du nôtre que c'est perturbant quand même. Donc moi ça fait depuis début décembre que tous les jours, je reçois des notifs qui me disent que Hitler était de gauche. C'est... Voilà. Donc les commentaires, Laval et Doriot étaient socialistes et communistes, point. Voilà. Lui, il va directement droit au but, voilà. C'est le Front Populaire qui a... Et c'est pas le Front Populaire qui a collaboré, justement, point d'interrogation. Lui, il pose une question, il a un doute, c'est bien. T'as raison de poser la question. Le RN n'est pas d'extrême droite quand on écoute son discours et ses propositions. C'est un mouvement de droite conservateur. Donc non, on n'a jamais essayé. Attends, quoi ? Le RN n'est pas d'extrême droite quand on écoute son discours et ses propositions. C'est un mouvement de droite conservateur. Donc, on n'a jamais essayé. Ben, c'est bizarre comme argument parce que si tu dis que le RN est finalement un parti de droite classique, tu peux pas dire qu'on n'a jamais essayé puisqu'on a précisément déjà essayé plein de fois la droite classique. Encore plus que l'extrême droite. Donc, non, c'est marrant. Ça va pas du tout dans ton sens ce que tu dis. C'est l'inverse. Bon, il y en a qui sont contents aussi. Ça existe. Il y en a qui parlent au niveau local à Toulon. Il est drôle ce Jean Massier en tout cas. À quand le one-man show ? C'est gentil, c'est pas, voilà, c'est gentil. C'est clairement ironique, hein, j'ai bien compris, mais c'est pas méchant. Sinon, il a des arguments factuels sur les points du programme qui seraient problématiques ou c'est encore un gauchiste qui dit « ouin ouin, la droite, c'est les méchants », juste pour savoir. Je vous rappelle que vous ne devez jamais le débat à qui que ce soit. C'est une règle. Le révisionnisme en toute décontraction, MDR. Voilà, le révisionnisme. Donc, je suis un révisionniste quand je dis que l'extrême droite était au pouvoir entre 1940 et 1944 en France. Sarkozy et Macron sont de droite. Quant à Hollande, il n'a pas fait une réelle politique de gauche, me semble-t-il. Déjà, il n'aurait pas nommé Macron s'il avait... fait une politique de gauche. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec... Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, mais oui, d'accord. Le RN est loin d'être l'extrême droite française. Qui a mis Pétain au pouvoir ? C'est la gauche. Assumez vos erreurs. Donc, on y revient. Grand classique de l'argumentation. C'est la gauche qui a mis Pétain au pouvoir. P Pétain est donc de gauche. Ou, à défaut, parce que c'est quand même dur à dire ça, Pétain est de gauche, c'est... Même les gens d'extrême droite, ils se rendent bien compte que ça... C'est... Bref. Donc ils disent, c'est exactement ce que dit ce commentaire, la gauche a mis Pétain au pouvoir, c'est donc de la faute de la gauche tout ce qui s'est passé sous Pétain. Donc voilà, et là, tous les commentaires que je viens de vous lire, c'est qu'une toute petite partie de la quantité astronomique de commentaires que je reçois sous cette publication autour de ce thème, autour de la responsabilité de la gauche dans la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est intéressant parce que ça montre bien, mais ça montre bien, le désert argumentatif dans lequel on se retrouve quand on utilise des thèmes. Et c'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit que les notions de droite et de gauche, c'était bien gentil 5 minutes, mais qu'en fait, ça a plus tendance à polluer l'esprit qu'à aider à lire l'actualité, parce qu'il faut rentrer dans le détail un peu pour réussir à expliquer les choses. Tu peux pas utiliser les choses comme un anathème. Et t'en remettre à ça, quoi. Et là, c'est exactement le même genre de truc. Donc voilà, donc Hitler était socialiste, parce qu'il y a le mot socialiste dans le nom de son parti. Pétain était de gauche. C'est la gauche qui a mis au pouvoir l'extrême droite. Et tu sens que c'est un marasme argumentatif qui est un peu compliqué. C'est comme, oui, mais Marine Le Pen, économiquement, elle est de gauche. Vous avez déjà entendu ça ? Marine Le Pen, économiquement, elle est de gauche. Sur d'autres thèmes, elle n'est pas de gauche, mais sur la question économique, elle est de gauche. Vous savez pourquoi ils disent ça ? Enfin, ils ne disent pas ça parce qu'elle est de gauche. Ils disent ça parce que Marine Le Pen, depuis 2017 et surtout en 2022, a développé un énorme discours sur la priorité au pouvoir d'achat. La question de l'immigration n'est plus une question centrale pour le Rassemblement national. La question prioritaire qui est mise en avant par le RN dans ses campagnes, c'est la question du pouvoir d'achat. Ça ne veut absolument pas dire que le RN a retiré son programme sur l'immigration. Ils veulent toujours la préférence nationale, le référendum sur l'immigration, etc. etc. ils le veulent toujours. Mais elle a des mesures sur le pouvoir d'achat pour les personnes les plus fragiles, basées en partie sur des réductions de cotisations sociales pour augmenter le salaire net, etc. Comme si en fait, il y avait un espèce de marqueur qui était que essayer d'améliorer le sort des petites gens était quelque chose que de gauche. Comme si ça n'appartenait qu'à la gauche. Et que donc, dès lors que Marine Le Pen se met à développer des propositions sur le pouvoir d'achat, fussent-elles pas tout à fait de gauche, mais ça, encore une fois, c'est pas à moi de distribuer les médailles, on peut en conclure que Marine Le Pen est de gauche. c'est bizarre. Ça, c'est un salto arrière un peu particulier qui est réalisé. Sur ce coup-là, je la trouve intelligente. C'est parfait pour piller l'électorat indécis plutôt de gauche. Oui, bien sûr, Marine Le Pen, elle a bien compris. Marine Le Pen, elle fait de la politique. Hein. Elle est pour le coup assez maligne politiquement, puisqu'elle a bien compris que ses marges de progression électorale ne se trouvaient pas dans la question migratoire. Dit autrement, les gens qui n'aiment pas les immigrés, ils votent déjà Marine Le Pen. Donc eux, c'est pas la peine de les séduire. Ils sont déjà là. Maintenant, il faut aller chercher ses marges de progression. Et les marges de progression, tu vas les trouver sur les questions de pouvoir d'achat. Avec le mouvement des Gilets jaunes, etc., qui a été un marqueur quand même assez important, où Marine Le Pen a décidé de foutre le paquet sur la question du pouvoir d'achat. Voilà. Donc effectivement, elle fout le paquet sur le pouvoir d'achat pour essayer de toucher cet électorat-là, bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours que les mots droite et gauche, ça crame le cerveau des gens quand même assez rapidement. C'est utile pour se repérer à grande échelle, disons, mais quand on commence à discuter précisément des politiques publiques et tout, c'est mieux d'essayer d'aller chercher des mots qui qualifient un peu mieux les choses, quoi. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire que je ne m'attendais pas à voir autant de gens qui sont de toute évidence des gens qui suivent pas ma chaîne, et ils ont le droit, hein, c'est pas le sujet, mais reprendre cet argumentaire autour de Hitler était de gauche, l'extrême droite était dans la résistance. J'en rigole parce que c'est tellement faux à un point, mais stratosphérique. Enfin, quand on dit qu'Hitler était de gauche, c'est pas qu'il était pas de gauche, c'est qu'il détestait la gauche à un point qui est difficile à imaginer. C'est pas juste qu'il était pas de gauche, c'est qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tuer la gauche physiquement. Pardon de rappeler quand même qu'Adolf Hitler a envahi l'Union soviétique avec des chars et des avions. Il a envahi l'Union soviétique. Je sais pas ce qu'il te faut pour dire « je suis pas de gauche » dans les années 30. C'est pas une adhésion à l'internationale ouvrière, ça. C'est à ma connaissance, d'ailleurs, c'est le seul pays qui a envahi l'Union soviétique, enfin, qui a essayé. Je veux dire, Adolf Hitler a interdit les syndicats, a interdit les partis de gauche, a interdit la démocratie. Il a emprisonné, déporté, torturé et assassiné des gens de gauche parce qu'ils étaient de gauche. Je sais pas à quel point Hitler avait envie de hurler à la face du monde et de l'histoire à quel point il n'était pas de gauche. Je sais pas. Je pense qu'il aurait dû se faire tatouer « Je ne suis pas de gauche » sur le torse et le montrer tous les jours, quoi. Alors si, t'as aussi l'argument de « Oui, mais Hitler a signé un pacte avec l'Union soviétique. » Donc en fait, Hitler et Staline étaient comme cul et chemise, puisqu'ils ont signé le pacte germano-soviétique. Et c'est là où, en fait, il faut rentrer dans le détail. Tu peux pas te limiter à dire ils ont signé un pacte, donc ils sont potes. Il faut rentrer dans le détail. Il faut rentrer dans le détail de c'est quoi le pacte germano-soviétique. Pourquoi ils ont signé ce pacte? Et la réponse, elle est connue aujourd'hui, quand même, par les historiens qui nous le disent, c'est que autant Hitler que Staline n'avaient pas les moyens de se taper dessus. Ils avaient pas la force armée. C'était pas la priorité, là. Pour un milliard de raisons, ils avaient des problèmes en interne, chacun de leur côté, qui fait que valait mieux se mettre d'accord pour pas se foutre sur la tronche maintenant, en gardant en tête que c'est possible éventuellement que demain on se mette sur la tronche quand même. Mais là, contextuellement, est-ce que ça te va si on se tape pas dessus? Voilà, c'est ça qui a été le... Ça ne fait pas d'Hitler un mec de gauche, hein. D'autant que Hitler a signé le pacte germano-soviétique, virgule, puis... Il a violé le pacte germano-soviétique. Le même, Hitler. Hitler a violé le pacte germano-soviétique. Hitler a foutu par terre ce pacte de non-agression pour déclencher une des plus grandes opérations militaires de l'histoire de l'humanité, l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Donc les gens qui vous disent « Ouais, mais le pacte germano-soviétique », rappelez-leur toujours que Hitler l'a violé, ce pacte. Bah oui, il a rompu le cessez-le-feu, hein. Ouais. Alors, il a envahi, puis il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, hein, sur l'invasion, là. Donc voilà, non, je sais pas, c'est Hitler est de gauche, Hitler était de gauche, c'est un espèce de magma intellectuel un peu étrange qui est utilisé par des gens qui se retrouvent de facto à l'extrême droite. Et qui assume mal d'être à l'extrême droite. Parce que l'extrême droite est encore dans les esprits quelque chose de honteux, de négatif. Et donc, on essaye de s'en dépêtrer, de s'en laver. Et quoi de mieux que de renverser la balance pour se sentir dans le bon camp? Le bon camp étant celui qui était opposé à Hitler. Donc non, je ne suis pas d'extrême droite, puisque je n'aime pas Hitler. Hitler était de gauche, moi je n'aime pas la gauche. Donc je suis dans le bon camp, puisque je suis contre Hitler. C'est une auto-justification qui est nécessaire à des gens pour s'autoriser à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'extrême droite. Mais de la même manière que, pour soutenir ton propos, je connaissais personnellement une dame allemande dans ma ville dont le père était déporté, car militant socialiste à l'époque. Ah non, mais c'est le nombre d'exemples. Moi, je vous ai donné les principaux exemples hein, pour vous dire à quel point Hitler était pas de gauche et à quel point, et encore, je pense que j'ai pas réussi à monter assez haut dans le niveau à quel point il était pas de gauche. Mais des exemples, il y en a, mais des centaines de milliers. Si, un autre exemple qui a été donné récemment à la radio, je me souviens, par Johan Chapoutot, le slogan de campagne d'Adolf Hitler en 1932. Est-ce que vous savez ce que c'était? Le slogan de campagne du Parti National-Socialiste en Allemagne pour les élections de 1932, je vous le donne en mille, « Mort au marxisme ». Je répète, « Mort au marxisme ». En trois mots, genre vraiment, ils ont essayé de faire plus simple, ils ont essayé de faire plus explicite de « on n'est pas de gauche », ils n'ont pas réussi. On est sur un « mort au marxisme ». Ouais, c'est fou. Hein. « Mort au marxisme », c'était l'un des slogans de campagne sur les affiches et tout. Je ne sais pas comment ça se dit en allemand, mais bref. Et c'est intéressant parce que tous les camps politiques ont leurs cadavres dans l'histoire. Je suis pas là pour évidemment, c'est pas mon genre mettre un pied d'égalité entre l'extrême droite et son histoire et la gauche et son histoire. La gauche aussi trimballe dans ses bagages des trucs difficiles à assumer qui sont pas très glorieux. Et avec lesquels la gauche est obligée de s'expliquer. Jules Ferry, bah oui, alors il y a une partie, effectivement, tu as raison, du colonialisme. Il y a eu un colonialisme de gauche, même si le mot gauche n'existait pas vraiment à l'époque, c'était plutôt, un républicanisme. Merci beaucoup pour le sub offert. Le colonialisme, voilà, la gauche a été colonialiste pour des raisons de gauche de l'époque, le républicanisme et son universalisme. Il y a le stalinisme, c'est quand même pas ouf le stalinisme. Il y a eu aussi des attentats anarchistes, quand même des gens de gauche qui ont tué des gens, quand même un peu moyen. Dans les années 70, il y a la pédophilie. Il y a eu des intellectuels de gauche qui ont signé des tribunes dans Libération pour demander la libération de prisonniers qui avaient été condamnés pour attouchement sur des mineurs. Voilà. Le maoïsme français. Pas très glorieux, ça. Voilà. Toute une partie, effectivement, de 68 arts staliniens jusqu'à la publication du livre de Solzhenitsyn. Où là, ça commençait à devenir difficile de nier la réalité de ce qui se passait en URSS. Autant tu peux te mettre un voile dans les yeux autant que tu veux, autant au bout d'un moment, quand ça devient criant, faut vraiment se boucher les oreilles très fort, fermer les yeux et dire là, 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 pour vraiment pas voir ce qui est en train de se passer de l'autre côté du mur de Berlin. Donc voilà. Dans les années 2000, la pédophilie. Non, c'est les années 70. C'est les années 70, c'est dans le mouvement de la libération sexuelle post-mai 68, où c'était jouir sans entrave, où il y avait une nouvelle sexualité qui se créait. C'est d'ailleurs la naissance des premiers mouvements de revendication homosexuelle sont arrivés dans ces années-là, d'ailleurs, à un moment où on proposait de lever le voile et de mettre à bas un espèce de conservatisme en matière de mœurs qui gonflait les jeunes. C'était le moment de la contre-culture, je vous rappelle, hein, je vous parle des années des Beatles, hein, c'est un moment, le rock'n'roll, tout ça, les jeunes garçons qui se laissent pousser les cheveux et les jeunes filles qui raccourcissent leurs jupes. Bref, dans ce mouvement-là de libération sexuelle, il y en a qui sont allés un peu loin dans la libération sexuelle. Et le un peu loin, c'est quoi? C'est Après tout, pourquoi ne pas autoriser moralement le fait d'avoir des rapports sexuels avec des enfants? C'est une éducation sexuelle, c'est important de laisser les enfants libres de décider. Les parents ont pour rôle d'accompagner les enfants dans la découverte de leur corps. Bon, ça a été défendu par des gens de gauche, des gens sincèrement de gauche, qui ont signé des tribunes dans l'IB, dans l'Obs, etc. Et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts parce que, bah, parce qu'ils le regrettent, parce que, en fait, c'était une connerie dans le sens où il a fallu la libération de la parole des victimes pour qu'on se rende compte que... qu'en fait, les enfants étaient victimes de ces agissements. Que derrière la libération sexuelle des uns, il pouvait y avoir l'oppression sexuelle des autres. Notamment quand ce sont des enfants. Voilà. Par contre, les attentats anarchistes, ça faisait pas tellement de morts. Les attentats, peut-être pas, les meurtres, si. Donc voilà, bon, bah ça appartient à la gauche. Ça appartient à son histoire. Cohn-Bendit, il est pas vraiment pédophile alors ? Cohn-Bendit, à ma connaissance, n'a absolument aucun reproche ne lui est fait d'avoir lui-même commis des actes. Il a par contre été l'un des signataires de différentes tribunes dans Libération qui sont jugées aujourd'hui problématiques. Parce que la gauche a fait un chemin. Si ça vous intéresse ce sujet, Libération, le journal Libération, a fait un excellent dossier il y a quelques années où ils reviennent justement sur ça. C'est une autocritique de Libération. C'est une autocritique de Libération qui dit, 40 ans plus tard, quel regard est-ce qu'on porte, nous, Libération, sur ce qu'on a nous-mêmes publié à l'époque. Et le dossier est vachement bien à lire. Parce que tu vois justement le travail de critique, de réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, comment c'est, machin, quelles ont été les histoires après, machin. Donc lisez ce truc-là, vous tapez Libération, pédophilie, Cohn-Bendit, je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais vous tomberez sur ce dossier qui vaut le coup d'être lu, parce que c'est un vrai travail assez intéressant qui a été fait par Libé. De l'autre côté, la pédophilie des institutions catholiques, match nul. Oui, alors c'est pas un match, hein. c'est pas un match, c'est pas certes, j'ai des turpitudes, mais t'en as plus que moi, parce qu'il y a quand même des... Il y a quand même des victimes au milieu de tout ça, quoi. On n'est pas là pour compter les points. Ouais, non, pas trop, non. Mais donc voilà, donc je reviens là-dessus sur le côté... comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ses propres contradictions? C'est déjà pas toujours facile pour tout le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour embrasser l'histoire d'un camp politique dont on n'a pas envie d'assumer toutes les époques? Et je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé d'assumer toutes les époques. Vous avez le droit de ne prendre que ce que vous avez envie de garder dans un parti politique, une philosophie politique, une école de pensée politique, une tradition politique, un parti politique, etc. Vous faites ce que vous voulez. C'est... Il y en a qui font ça avec le RN, du coup. Ah bah, ça m'empêche pas d'en penser quelque chose. Ça m'empêche pas d'en penser quelque chose. L'antisémitisme de Proudhon, je prends pas. Ah ouais, non, 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 ça c'est pas obligatoire. Hein. y compris l'extrême droite qui renie ses origines. Non, mais attendez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, les autres sont libres aussi d'avoir un jugement sur ce que vous faites. Hein. C'est... Moi, les mecs d'extrême droite qui se lavent les mains de la période de la Seconde Guerre mondiale en disant « ça me regarde pas, Hitler était de gauche », j'en pense quelque chose. Mais eux, de leur côté, ils se sentent très à l'aise. Hein. Merci Dart pour les articles de Libé sur le sujet dont on parlait tout à l'heure. Mais ouais, non, je vous conseille de lire effectivement le dossier qui a été consacré par Libé à cet article, à cette période. Check News aussi avait fait un très bon article, je me souviens. Ouais, c'était Check News, c'est ça, c'est le troisième article qui a été partagé par Dart. Libération a-t-il soutenu la pédophilie en 1974 ? Question directe. Il n'y a pas si longtemps, Méluche supportait bien Chavez. Ça, c'est le problème des soutiens internationaux, c'est que t'es un peu obligé d'assumer le bilan derrière, quoi. Et c'est valable pour tout le monde, hein. Le communisme n'est pas à jeter parce que l'URSS a été caca. Exactement. Exactement. Par contre, ça rend plus exigeant. C'est-à-dire qu'il faut réussir, pour ceux qui se revendiquent du communisme, il faut essayer d'imaginer un communisme qui ne refasse pas les mêmes erreurs que l'URSS. Et c'est pas facile. Mais c'est le challenge. Faites mieux. Comme disait un grand philosophe, faites mieux. L'URSS a un bilan globalement positif. Ça, c'était qui? Qui est-ce qui avait dit ça, globalement positif? C'était après la chute du mur de Berlin. C'était Georges Marchais. En 1979. Non, non, c'était 10 ans avant la chute du mur de Berlin. Georges Marchais avait qualifié le bilan de l'URSS de globalement positif. Je vous rappelle qu'on est 4 ans après la sortie de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, effectivement, en 1974-75, un réfugié russe qui s'appelle Alexandre Solzhenitsyn a réussi à publier un livre partout en Europe, qui a été traduit dans plein de langues. Un livre qui s'appelle « L'archipel du Goulag ». Et dans ce livre, Solzhenitsyn décrit, comme un journaliste d'investigation, le système concentrationnaire soviétique. Ce livre va faire l'effet d'une bombe en Europe, de l'Ouest, de notre côté à nous. Pourquoi ? Parce que dans son livre, Alexandre Solzhenitsyn démontre quelque chose qui est terrible à entendre pour quelqu'un d'Europe de l'Ouest qui a connu le nazisme et la Shoah, c'est que l'URSS n'a rien à envier au nazisme en matière de système concentrationnaire. Et ça, les lycéens qui étaient de gauche en 1968... qui ont donc 26 ans au moment de la sortie du bouquin en langue française, ils sont un peu pris d'effroi en se disant « Merde, est-ce que j'ai vraiment défendu ça ? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai l'info ? Maintenant que je sais ? Maintenant que c'est impossible de se voiler la face ? Est-ce que je peux continuer à soutenir le communisme ? Alors, il y en a qui vont aller vers le trotskisme, du coup, qui est un communisme critique de l'URSS. Puis, il y en a d'autres qui vont aller au Parti Socialiste, qui venait d'être créé, en plus, ça tombe bien. Mais voilà. C'est dur de rester indifférent au livre de Solzhenitsyn quand t'es de gauche, en 1974. Et Georges Marchais, en 1979, dit que le bilan est globalement positif. Tout est dans le globalement. Solzhenitsyn est un monarchiste nationaliste, en plus de ne pas avoir fait un travail d'historien. Alors oui, effectivement, ça c'est ce qu'on lisait dans les colonnes de l'Humanité à l'époque. Évidemment, l'UMA critiquait Solzhenitsyn en le taxant de toutes les insultes possibles et imaginables pour le décrédibiliser, pour ridiculiser son travail, dire que c'est pas vrai, etc. Le problème, c'est que ce qu'a dit Solzhenitsyn a quand même été validé après hein, par tous les observateurs, les historiens, les machins. Voilà, il y a un moment. Voilà. Bon. Mais on peut toujours choisir de se fermer les yeux hein, pour ne pas voir. Comme ça, on n'a pas vu. Il y a des négationnistes des goulags. Ouais. Il y a des négationnistes des goulags. Oui, ça existe. Des gens qui disent que c'est faux. Les goulags n'ont jamais existé, ou alors pas dans les proportions qui sont décrites par les historiens, que les goulags étaient simplement des camps de travail, des camps de prison normal, avec un système judiciaire juste et fiable, que certains des gens qui étaient au goulag étaient volontaires. Enfin bref, t'as toute une littérature de gens qui vont t'expliquer que on fait un mauvais procès à l'URSS en lui reprochant son système concentrationnaire. Il y a un documentaire qui est sorti récemment sur France 5, je crois, sur les goulags, que j'ai vu et que j'ai adoré. Et je l'ai adoré notamment pour une raison, c'est que ce documentaire m'a fait prendre la mesure à moi. Alors, moi, je suis un jeune français européen des années né dans les années 80, grandi dans les années 90. Donc, je suis bien informé du système concentrationnaire russe. À l'école, j'ai appris le totalitarisme, j'ai appris ce qu'était le stalinisme, j'ai appris ce que l'URSS faisait, j'ai quand même été sensibilisé au truc. Mais j'ai attendu l'âge de 35-36 ans, en regardant un documentaire d'Arte, pour me rendre compte de l'importance que revêtait le goulag pour l'économie russe tout entière, à l'époque. C'est incroyable, c'était pas juste des camps de prisonniers, les goulags. C'était un système organisé d'extractivisme et de travail à la disposition de l'économie de l'ensemble de l'URSS. L'URSS, autrement dit, sans goulag, l'URSS s'effondrait. Le système reposait sur le travail gratuit de ces hommes et de ces femmes. Qui faisaient pas des petits trucs sur le côté, genre ouais, c'est toujours utile d'avoir des prisonniers qui font 2-3 trucs et tout. Non. Ils travaillaient dans des mines, par exemple. L'extractivisme soviétique, c'était fait par des esclaves, qui étaient les gens au goulag. Il y avait des cultures, il y avait des travaux d'infrastructure pour poser des rails, pour creuser des tranchées, pour creuser des canaux, etc. etc. Et donc, en fait, c'est ce documentaire qui m'a fait percuter d'un coup que, waouh, putain, mais en fait... Genre, le goulag était nécessaire au fonctionnement du bordel. J'ai plus le nom du canal qui est connu pour avoir été creusé par des prisonniers. Moi non plus, j'ai plus le nom, mais il y a un canal très connu en Russie, effectivement, qui a été creusé par les premiers goulags. Près de Saint-Pétersbourg, ça. C'est Goulag, une histoire soviétique. C'est peut-être ce documentaire-là, ouais. Goulag, une histoire soviétique. Je crois que c'est ça. Ça me dit quelque chose, ça a l'air d'être ça. Ou à la fin, t'as une carte. Enfin, vraiment, ils te font une carte de l'URSS. Ils te montrent où étaient les goulags. Il y en avait plein. Et ils te montrent ce qu'ils faisaient. Donc là, ce goulag-là, c'était une mine qui était une mine d'argent. Ça, c'était une mine de cuivre. Ça, c'était une mine d'étain. Ça, c'était, ils creusaient un canal, ça, ils faisaient ci, ça, ils faisaient ça, là, il y avait du charbon, il y avait des trains et tout. Et tu regardes le truc, tu dis, mais c'est incroyable, en fait,
C'est fou.
Je connais pas du tout le courant de pensée communiste. Est-ce que les goulags sont intrinsèquement liés à ce mouvement du coup ? Non. Non, les goulags sont liés à l'histoire du communisme et notamment de l'expérience soviétique du communisme. Le courant communisme, le courant communiste aujourd'hui en France ne revendique absolument pas le goulag, au contraire. Il y a une critique qui a été faite, il y a une réforme assez profonde, notamment du PCF sur ces questions-là. Au contraire, non. C'est pas, les goulags, c'est pas intrinsèquement lié au communisme. Par contre, c'est intrinsèquement lié, oui, à l'histoire du communisme, ça c'est vrai. Et puisque c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, les communistes sont bien obligés de vivre avec ça. Avec cette histoire gênante dont il faut réussir à faire quelque chose. Donc... La Révolution rouge a besoin de goulags pour réussir. C'est dommage qu'elle ait raté malgré les goulags, du coup. Pardon, mais si ce que tu es en train de dire, c'est qu'il en aurait fallu plus pour que ça marche mieux. Si tu veux. Contre l'extrême droite avec le nazisme, quoi. Chacun ses crimes contre l'humanité. Ouais, oui. Même si là encore, attention, je me méfie des parallèles un peu rapides qui peuvent être faits. Tout se vaut, tout est égal à tout, et tout est assimilable. Après tout, nazisme, communisme. Est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Enfin, tu vois, je me méfie de ces discours-là un peu rapides, quoi. Macron, Trump, même combat. Oui, voilà, ce genre de conneries, par exemple. Tu vois, c'est... On se rappelle bien qui a accueilli les bras ouverts les nazis à Paris en 1940, c'était pas l'extrême droite. Hein? À ce propos-là d'ailleurs, anecdote de Parisien, parce que vous savez, j'habite à Paris, tout ça, et puis j'adore Paris, j'ai bossé à la mairie de Paris, tout ça. On m'a raconté que en 1940, alors je me souviens plus de la date exacte. En 1940, quand les nazis sont entrés dans Paris, donc physiquement, c'est-à-dire que les nazis sont entrés dans Paris avec un espèce de défilé militaire, avec des chars d'assaut, avec des troupes qui marchent au pas, etc. C'était la prise de Paris au sens physique, voilà, etc. Voilà. On m'a raconté qu'il y a deux anecdotes intéressantes qui se sont passées à ce moment-là. D'une part, il paraît que Paris, le jour de l'entrée des nazis dans Paris, était silencieux à un point que la ville n'a jamais connu en 2000 ans d'histoire. C'est-à-dire que tous les volets étaient fermés, les Parisiens avaient tous fermé leurs volets, tout le monde avait fermé sa porte, il n'y avait personne dans les rues. Quand je dis personne dans les rues, c'est personne, nulle part à Paris. Et c'était une manière qu'avaient les Parisiens de dire aux nazis, vous n'êtes pas les bienvenus. En tout cas, les Parisiens qui étaient encore là, parce qu'il y a quand même un paquet qui s'était barré sur les routes au moment de la débâcle en 39, donc voilà. Donc c'était absolument spectaculaire. Et l'autre truc qui a été fait par des Parisiens avant l'entrée des Allemands dans Paris, je trouve ça très drôle, mais en même temps c'est du troll, mais ils sont descendus avec un tournevis la veille de l'arrivée des Allemands dans Paris. Ils ont descendu avec des tournevis et ils ont dévissé toutes les plaques de signalisation des rues. C'est tout simple, hein. C'est vraiment, tu vas au bout de ta rue avec ton tournevis, tu dévisses les deux plaques, tu te barres avec, et les Allemands qui débarquent dans Paris, bah, ils se perdent en fait parce que c'est trop galère en fait, ils connaissent pas, ils savent pas où ils sont, ils ont vaguement des cartes mais il y en a pas beaucoup, en plus c'est des cartes militaires, c'est pas des cartes avec les noms des rues et tout, donc, enfin bref. Et il paraît même, alors je sais pas si cette version là est vraie, mais il paraît même que sur la place de l'Étoile, il y avait des Parisiens qui avaient interverti les noms des avenues pour vraiment faire chier les Allemands. Ils avaient changé, genre Champs-Élysées en fait c'était l'avenue de Wagram, les autres c'était l'avenue de la Grande Armée et tout, tu vois, ils avaient juste pour casser les couilles en fait. Voilà, bon ça sert pas à grand chose mais si ça sert. Non, ça sert à rien parce qu'en moins de 24 heures les Allemands ils ont remis tout, ils avaient des cartes, ils ont mis d'ailleurs des noms de rues en allemand hein, d'ailleurs. Donc c'était une manière, disons, passive-agressive de dire aux Allemands, on vous emmerde, quoi. Voilà, c'est un peu le message qu'essaient de faire passer les gens. Un quart de la population française était sur les routes pour fuir les nazis quand même. Oui, c'est ça. C'est, en fait, il y avait des Parisiens qui avaient quitté Paris déjà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, c'était un moment de grand désespoir. C'est difficile de se rendre compte l'état dans lequel était la France au moment de la débâcle en 1940. L'été 1940, le pays était à genoux, quoi, physiquement. Les usines ne marchaient plus, tous les services publics, les réseaux postaux, éducation et tout ça était à terre. Les gens étaient plus chez eux, les gens étaient partis, les gens s'en allaient, les gens partaient, sans rien, avec une valise, sans valise. Très très particulier, quoi. Quand on est impuissant, on fait ce qu'on peut. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, quand on est impuissant, on fait ce qu'on peut. La petite résistance du quotidien, là. C'est quand la Zilan ? Dis donc, ça commence bientôt, on dirait. Ça commence dans 2 minutes. Mais pourquoi je vois personne qui a lancé un waiting screen ou je sais pas quoi? 19h le trailer. Ah, c'est à 19h! Oh bah ça va! Moi je croyais qu'on allait encore se quitter sur une histoire de nazi, mais non! On a le temps de raconter d'autres conneries! C'est fou, ça. C'est le waiting screen qui commence à 18h30. Ah, d'accord. Bon, bah, je suis le waiting screen. Je me propose d'être votre waiting screen d'ici au début de la Zilan. Et quand la Zilan commence, on fait un raid et on passe tous une super soirée à regarder la Zilan. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ce que je vous propose vous va? Vendu, ça te va? Oui? Nickel. Ben nickel. Donc, les nazis. Quand je parlais des nazis... Non, je déconne. Ah, ça va, on rigole. Oh là. Oh là. Sur quelle chaîne, le raid? Bah, la chaîne de Zera. Moi, je vais pas faire de fioriture. Hein. Ou alors, on va chez Wingo. Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que tu as déjà parlé de la proposition de loi déposée par François Hollande en début de semaine de souvenir? Non. Non, il a déposé quoi, Hollande, comme proposition de loi? Il a vraiment déposé un truc? Zera, c'est bien pour le lancer, ce petit. Ah ben moi, quand je peux aider des streamers débutants à percer un peu, j'essaye, hein, donc... Zera, c'est un mec que je soutiens, j'aime bien ce qu'il fait. Plus de frites à la cantine, les réfugiés scientifiques. Ah, sur les réfugiés scientifiques. Ok, François Hollande, simple député de Corrèze, je vous le rappelle, hein, on parle d'un député de Corrèze, tout à fait respectable dans son mandat, qui propose donc, je suppose, de faciliter l'accueil des scientifiques américains, c'est beaucoup à eux qu'on pense, pour s'installer en France. D'accord. Hmm. C'est qui Zera? Ah bah si tu connais pas, il s'appelle Zerator, c'est un jeune streamer qui se lance mais qui fait des streams plutôt sympas. Ce soir tu verras, on va faire un raid et tu vas pouvoir découvrir un peu les petits streams du vendredi qu'il fait de temps en temps. C'est une bonne idée en vrai. C'est une très bonne idée. Oui, non, mais moi je suis d'accord. Je veux dire, Donald Trump est en train de faire n'importe quoi comme d'hab. Donald Trump est en train de faire n'importe quoi et donc les scientifiques américains sont pour nombreux d'entre eux sont en train de s'interroger sur la suite de leur carrière et ils sentent que c'est pas aux États-Unis que ça va avoir lieu. Et donc dans ce mouvement-là, peut-être que la France pourrait tenter de les accueillir. Leur proposer de continuer à travailler. Je suppose que techniquement, c'est très complexe. Parce qu'un scientifique, tu lui fais pas quitter son université comme ça en claquant des doigts pour travailler dans une autre université. Mais voilà quoi. Je suis scientifique aux US et bah j'ai peur pour mon poste. Bah ouais, non mais je comprends bien. Bah écoute, sache que la France t'accueillera avec plaisir et que tous les scientifiques US qui viendront se réfugier en France pourront venir dans le public de Backseat gratuitement. Voilà, c'est ma participation à l'effort d'accueil des scientifiques réfugiés. J'espère que ça va être un game changer. Et que ça va permettre d'accélérer le mouvement et de... Voilà. Ils pourront prétendre au RSA. Ils pourront prétendre au RSA. Je suis scientifique en France et j'ai pas de poste stable. Oui, mais réjouis-toi, tu pourrais être scientifique aux États-Unis et ne pas avoir de poste stable. Et on peut pas tout avoir. Hein. Do you know sécurité sociale? Do you know social security? Do you know the vital card? The vital card is a very good card. It's like a blue card. Non, on dit pas comme ça. On dit a credit card, but for the social security, for the health insurance, the public health insurance. Vous vous souvenez de... C'était où Le Airplace sur Reddit, la Pixel War, quand il avait fallu illustrer c'est quoi la France et que les Français, ils avaient fait une carte vitale. J'étais mort de rire. J'étais vraiment en mode, ça, c'est ma France. Ça, c'est ma France. Je me souviens, il y avait Thomas Pesquet, Zinedine Zidane, l'Arc de Triomphe, une baguette... La carte vitale. Il y avait le drapeau français, évidemment. Il y avait le Louvre, la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre, ouais, la tour Eiffel. Les Daft Punk. Et Arcane. Ouais, enfin, c'était Arcane, c'était le... Oui, oui, il y avait Jinx... De Camel, non, avec la Blue Flame. Pour la K-Corp. Il y avait Arte, putain, c'était si drôle, Arte. Arte, c'était la rencontre du drapeau français et du drapeau allemand. Parce que nous, on a un drapeau vertical ou ils ont un drapeau horizontal, du coup, les deux sont croisés à un endroit. Et plutôt que de se faire la guerre, les Français et les Allemands, ils ont décidé de faire le logo d'Arte. Mais c'était si drôle. Et Arte en a fait sa profile picture, je sais pas si vous vous souvenez. Arte, genre pendant un an, leur profile picture, c'était les pixels d'Arte, du logo Arte en pixels. Non, les Français et les Allemands, on a quoi en commun? On a Arte, les gars. Bah ouais, c'est à nous. C'est trop de la balle. C'est vraiment, mais c'est hyper spontané. C'est... Les deux drapeaux sont à l'horizontale. Non, le drapeau français n'est pas un drapeau à l'horizontale, c'est un drapeau à la verticale. Le bleu, le blanc et le rouge sont trois colonnes verticales. Mine de rien, ça rapproche les peuples. Mais oui, grave. Mais non, mais c'est trop bien. Je suis trop content. Ça dépend dans quel sens est ton écran. Ouais. Oui, exactement. Oui, mais il est en format paysage. Ah oui, putain, la vache, oui. Oh putain, vous êtes pointilleux, hein. Mais oui, effectivement, le drapeau sont au format 16/9. On va dire ça comme ça. Mais les couleurs sont espacées de manière verticale. Oh, et puis merde, c'est bon, ça va. Tout le monde a compris, de toute façon. Si on lance une Pixel War sur la chaîne, vous pensez mettre qui et ou quoi ? Une Pixel War de ma chaîne ? De tout le lore de ma chaîne pour les 10 ans de ma chaîne ? Le problème, c'est que ça ne marche que s'il y a énormément de monde. Alors, je sais que je suis extrêmement talentueux, mais pas au point d'avoir énormément de monde qui joueront à mettre des pixels, tu vois. Le palais Bourbon, le palais bonbon. Bon, vous prenez la dernière ref en date. Un Usul géant. Le logo de la vie publique et d'Acropolis. Oh putain, à l'ancienne. Le chat en Lego. La casquette CGT. Un avion. Bah j'espère quand même, un avion. J'aimerais bien redémarrer mon setup d'ailleurs. Mais là, si c'est la Zilan, ça va être un peu compliqué pour streamer. Donc ce week-end pas de stream, ce week-end c'est Zilan et le setup Flight Simulator, faut que je le mette à jour et tout. Vous bougez pas, je passe aux toilettes, j'arrive, je reviens tout de suite. Re 18h38. Didadidadoum. Bon, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, sachant que vous avez bien compris que mes compétences vont du judéo-christianisme à la politique française en parlant par l'occupation et le nazisme, le jeu vidéo, les avions. Parc Astérix aussi, ça je peux répondre. Non, quand même. On a quand même une palette, on a quand même une offre qui est pas dégueulasse, je trouve. T'écoutes quoi comme musique ? J'écoute pas de musique. J'ai jamais l'occasion d'écouter des musiques. J'écoute des podcasts de politique. Je suis un connard, je me déteste. Mais c'est pas une blague. Les rares fois où j'ai des écouteurs dans les oreilles, c'est pour écouter Enquête de politique, le podcast de Thomas Legrand. C'est combien une place enfant au parc Astérix ? Je sais plus. Je crois que c'était 40 balles. Par quel avion faut-il remplacer les Alpha Jet de la PAF ? J'adorerais que les Alpha Jet soient remplacés par un avion à hélice. J'adorerais. Je pense pas qu'on puisse faire une patrouille de France avec des rafales parce que c'est 1000 fois trop cher. Mais tu prends un Tucano, tu prends un, tu prends un TBM. Un TBM. TBM, allez. Une patrouille de France avec des TBM. Un Pilatus, sinon. Un PC-21, un PC-12, un PC-12. Bah, ce serait bien que ce soit un avion français, si on peut. On a 400M. La PAF, on a 400M, ça va être un peu chiant, le show. Ils ont évoqué les Rafales au standard F2. Donc, les anciens Rafales, standard F2. Non, mais c'est trop cher, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Tu peux pas faire sérieusement une patrouille de France avec des Rafales. Ça aurait de la gueule, hein, c'est sûr, j'adorerais, mais... Ça me paraît délirant, quoi. Les Alpha Jet ne vont plus être utilisés. Non, les Alpha Jet sont arrivés en fin de course. Et donc, on réfléchit à leur remplacement. Bref, si tel est le cas, la déchéance de la France se traduit par la régression sur avion à hélice. Oh, pardon. Oh, pour monsieur, le réacteur est supérieur à l'hélice. Oh. Oh là là. Oh, la France va reculer en utilisant de vulgaires hélices. Eh, ben putain. Tu sais faire des avions en papier qui planent vachement longtemps. Ouais, je sais faire des avions en papier qui planent vachement longtemps. Les modèles l'aigle, là. Je crois que c'était le Eagle. Eh, je vous avais pas montré au parc Astérix, j'ai acheté ça. Ok, c'est de la merde. Je suis désolé. Voilà, ça tient à peu près. Ça tient à peu près. 20 balles pour ça. Exactement. Alors, c'est exactement ça. 20 balles pour ça. Moi, parce que moi quand je suis allé au parc Astérix avec mes neveux et nièces mercredi, quand je rentre dans le parc Astérix, je vois qu'il y a plein de boutiques et je me dis... Non, mais je vais pas faire comme tous les pigeons qui achètent des trucs en sortant du parc le soir, ça va. C'est bon. Et voilà. Bon. Ensuite, je passe la journée au parc Astérix avec les petits. Et le soir, au moment de rentrer, les petits me regardent tous les trois avec des grands yeux humides comme ça, devant la boutique. Et moi, je me fais avoir. Je me fais avoir, faible que je suis. Donc je leur dis, bon allez, on peut aller regarder. Et du coup, on va regarder dans la boutique. Évidemment, il y a des trucs trop bien dans la boutique. Et on est ressorti avec un cadeau pour chacun des enfants pour qu'ils gardent un souvenir. Et moi, j'ai acheté ça. Pourquoi, je sais pas. Je vous jure que quand je l'ai acheté, je me suis dit, ça aura le mérite de faire marrer le chat. Des fois, je me déteste. Hein. Vous savez, il ne faut pas croire, je suis toujours bien et tout. Non, non, non. Des fois, je me trouve vraiment juste non. On est son alibi. C'est ça. En fait, vous êtes mon alibi. En fait, j'avais très envie de m'acheter un truc du parc Astérix. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je ferais passer ça pour un caprice du chat. Donc voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que, disons que, combien de subs il faut que j'aie pour que ça rembourse ça? Combien je l'ai payé déjà? Je me souviens plus. Je me suis dit, voilà, si je fais des blagounettes comme ça à base de conneries comme ça, Peut-être qu'il y a des gens, ils vont s'abonner à ma chaîne et peut-être les abonnements, ça remboursera l'achat, tu vois. Je suis nul en économie. Hein. Analyse géopolitique. Analyse politique. Analyse politique. Au parc Astérix, il y avait un légionnaire romain qui s'appelait CSP+. Vraiment, j'étais le seul à rigoler comme un connard quand j'ai entendu ça. CSP+, au rapport. Oh putain. Le camp de référendum. Oh, joli. T'as complètement arrêté d'être DJ ? Oui, j'ai complètement arrêté d'être DJ. Depuis 16 ans ou 17 ans. Ça date quand même. Non, mais il y a Ava. Non, mais vous avez Ava. Venez pas me chercher pour faire de la musique. Hein. Vous avez Ava, je vous rappelle. Hein. Il y a quand même les meilleurs DJ de France sur cette plateforme. Venez pas me chercher, moi. Hein. Il y a Insuline et Nicotine aussi. Il y a Insuline et Nicotine. Deux très, très grands DJ. Ça me rappelle le fameux Bigus Dicus de la vie de Brian. Putain, c'était si drôle. Bigus Dicus. Toxic Avenger qui streamait cet après-midi. Ah oui, il y a Toxic aussi, bien sûr. Toxic Avenger qui a fait la musique de Backseat. Je vous rappelle. Ma compagne a comparé l'intro de ta chaîne YouTube au générique de D-Echo sur M6 et je vois plus que ça maintenant. Je le prends mal, hein. Je le prends très très mal. Hein. Non, je suis désolé, non. Non, il n'y a pas. Bande de bâtards. Allez vous faire foutre. Attends. Non, attends. J'avoue un peu. Putain, vache. J'avais jamais vu le générique de déco de ma vie. Elle a raison. Elle a pas complètement tort. Je dirais pas qu'elle a raison. Je dirais qu'elle a pas complètement tort. Mais de toute façon, personne regarde Déco. Enfin, je veux dire, ça s'adresse. C'est pas le même. On s'adresse pas à la même cible. Pas. Réponse de politique. Oui, évidemment. Ça existe plus, Déco. C'est fini. Bon, bah, c'est bah, très bien alors. C'est bon. Moi, je suis toujours là, toujours debout. Toujours debout. Connard de virus. Tu pourrais maroufler ton mur porteur derrière. Pour... ouais. Non, mais je sais pas. On est en avril. Peut-être que je ferai un nouveau générique en janvier. Je sais pas. GG pour la Zilane. Merci à tous. Merci. Ça a été une très très belle aventure cette année. Cette Zilane a été très difficile. J'ai beaucoup de respect pour mes adversaires au cours de cette Zilane. Adversaire et néanmoins ami. Ouais. Je suis très content. Tu vas refaire ta pièce de stream avec un thème London. Techniquement, c'est pas ma pièce de stream. Ici, c'est mon salon. Alors tu me diras, bon... C'est totalement un setup de stream, donc c'est la même chose. Mais là, il y a le canapé. Canapé que j'ai sélectionné, que j'ai acheté spécialement pour qu'il soit confortable quand Usul dort à la maison. Il s'appelle littéralement le canapé d'Usul, parce que c'est le seul à dormir dessus, du coup. Et je crois qu'il aime bien. Voilà. Ça, c'est le canapé d'Usul. D'ailleurs, il y a la couette qui est encore derrière, là. Il faut que je les remette. J'ai oublié de les virer avant le début du stream. Là, il y a mon setup de Flight Simulator, qui est juste à côté. Puis là il y a la fenêtre et de l'autre côté de ce mur là en face c'est ma chambre et derrière le mur que vous voyez là c'est la cuisine. Voilà, c'est tout. C'est le panier d'Usul. Pas du tout. Elle est où la perceuse? Putain, heureusement qu'elle s'est calmée parce que tout à l'heure, là, aujourd'hui, la perceuse, elle a été forte. Hein. Oh. Ça a tabassé en début d'après-midi. C'est pour ça que j'ai hésité à lancer un stream et je me suis dit, vas-y. Vas-y, j'ai quand même envie de discuter avec le chat. On lance un stream peinard, on papote et la Zilane, on fera un raid tout à l'heure pour la rejoindre. Et puis, Donc, moi, mon programme de la soirée, c'est le même que le vôtre. Hein. Peinard à la maison, à regarder la Zilane tranquille. Tu vas regarder sur le canapé d'Usul? Ah non, pire, dans mon lit, comme un connard, dans mon lit. Il me reste une bière. Je crois qu'il me reste une bière, faut que je vérifie. Quand Usul dort chez toi, tu retiens combien sur son salaire? Bah rien du tout, mais ça nous fait des économies pour Backseat. Non, parce que moi, je me souviens, la première saison de Backseat, on prenait un hôtel pour Usul. On lui payait une chambre d'hôtel. Sauf qu'après l'émission, déjà l'émission, elle se finissait tard. Et puis comme on papotait avec Usul, je lui disais, bah, passe à la maison, tu pourras aller à ton hôtel après si tu veux. Et puis en fait, genre à deux ou trois reprises, plutôt que d'aller à l'hôtel, il est resté à la maison, parce que de toute façon, il était super tard, et puis donc il s'est endormi sur mon canapé, etc. Et du coup, au bout de trois émissions, je lui dis, bah, en fait, genre, ça te va si on ne prend pas de chambre d'hôtel et que tu piotes à la maison à chaque fois? Il me fait, bah, je préfère en vrai, bah, vas-y, let's go. Donc voilà, donc on a économisé pour Backseat, parce que juste, tranquille, quoi. Moi, je préfère qu'il dorme à la maison, lui, il préfère dormir chez moi plutôt que dans une chambre d'hôtel. Comme ça, on refait le monde, on refait la gauche, évidemment. Des grandes discussions avec Usul à chaque fois. J'ai toujours énormément de plaisir à accueillir Usul à la maison. C'est trop cool de la voir, ça me fait trop plaisir. Voilà. Et vous êtes bourré, il faut le dire. Et on est généralement assez arraché, effectivement. On est plutôt en fin de soirée, plutôt raide bourré. Vous ne refaites pas les droites? Si hier on... Putain, je me souviens plus parce que j'étais bourré, hein, mais on a eu une longue discussion sur la justification des Républicains et l'autonomie stratégique de la droite. Et on a enchaîné sur la perspective du macronisme. Est-ce que le macronisme va disparaître ou est-ce qu'il va rester un macronisme résiduel qui, comme le giscardisme, s'est transformé dans l'UDF en une nouvelle droite libérale et européenne ? Putain, c'était deep. Hein. J'aimerais tellement être la souris dans ce genre de moment. Vraiment de connard. En train de boire de la bière. Faut m'en arracher en disant « Ah, oh, mais attends, tu crois vraiment que le macronisme va disparaître ? Parce qu'on est quand même sur une dynamique forte et lourde en Europe. Ah, oh, mais ils vont pas disparaître, mais ils vont se retrouver alliés de facto à des républicains réformés ou à un RN institutionnalisé, je sais pas. Alors non, il y a un autre truc. Alors, putain, on l'a pas fait hier, c'est marrant, mais d'habitude, j'ai l'honneur d'être le premier visionneur de la vidéo de Rhinocéros. Rhinocéros sort le dimanche, et en général, le monteur de Rhinocéros finit le montage le jeudi. Du coup, quand j'arrive à la maison, je lui fais « Ah bah tiens, tu veux voir le dernier Rhinocéros ? Je viens de le recevoir, je vais regarder avec toi le dernier montage et tout. » Et du coup, voilà, sur ce PC, on met Rhinocéros et on regarde Rhinocéros. Je suis très content. Du coup, je fais mes premiers retours. J'ai l'honneur d'être le premier commentateur YouTube et je fais mes commentaires directement à Usul sur l'épisode. J'ai pas vu Backseat hier, ça parlait surtout budget. Non, ça parlait guerre commerciale avec les États-Unis et perspectives budgétaires, ouais. Et Gaza aussi. Tu lui dis first à voix haute. Vraiment le pote de merde. Il se tourne vers toi qui fait first. En vrai, c'est un peu bloqué de la politique. Je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai parallélisme avec bloqué. Non mais c'est ça, c'est avec de l'alcool en plus. Oh, mais t'y crois toi à la candidature de Méluche ? Ah non, faut surtout pas qu'il y aille, hein, c'est une connerie. Ouais, c'est chaud. On est plutôt sur une fin de cycle que sur un début, quoi. Non, je sais pas, je suis très mauvais acteur. Ouais, j'ai vu qu'on était à 1 minute 30 de la Zilane. Mesdames et messieurs, il me revient de vous remercier. Vous restez là, on va faire un raid chez Zerator. Vous allez pouvoir suivre la Zilane. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont jamais suivi la Zilane, il s'agit d'une LAN, donc d'une compétition au même endroit de jeux vidéo où tous les joueurs et les joueuses se réunissent pour jouer et s'affronter sur une dizaine de jeux vidéo différents. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas habitué aux jeux vidéo, tout va vous être expliqué par Zerator au cours de cette compétition, comment fonctionnent les jeux, comment on marque des points, etc. Tout va vous être expliqué et vous allez voir des duos s'affronter. Ça commence aujourd'hui, là, dans quelques minutes, et ça termine dimanche avec la finale et le grand vainqueur qui gagne 40 000 euros à suivre. Un super week-end, merci les copains d'avoir été là, merci d'avoir regardé Backseat. Hier, on lance un raid. Voilà, on lance un raid chez Zerator pour la Zilane. Merci les copains, passez un bon week-end, profitez bien de votre Zilane. Et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de joyeuseté politique, n'est-ce pas ? Bonne soirée à toutes et à tous, salut tout le monde, ciao.